I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On est en septembre 2021, on est dans l'épisode numéro 201 du rendez-vous jeu où on va vous parler de ce qu'on a retenu de la Gamescom, du reste de la Gamescom. On va aussi parler de Marvel's Midnight Suns, de Psychonauts 2 et de plein d'autres news. C'est le rendez-vous jeu et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. Je suis tellement heureux de vous retrouver pour cette rentrée pleine d'événements et de choses sympathiques, quelque chose un peu moins sympathique aussi. Mais on est là, on va couvrir toute l'actu gaming comme d'habitude. J'aimerais réaccueillir dans l'émission l'un des piliers de tous les invités. À vrai dire, c'est un petit peu celui que je préfère parmi les réguliers.
Oh,
en même temps, Fanny, je vais te dire un truc, je dis ça à tout le monde. Donc, tu vas voir, quand je vais présenter Fanny, je vais aussi te dire que t'es ma préférée. Mais il ne faudra pas le dire à Jika. Bonjour Jika, comment ça va, mon animateur préféré?
Ben, ça va, mon podcasteur préféré, Patrick Béja.
Ça se balance des fleurs.
Depuis la dernière fois que je suis venu, tu as changé ton lancement. Tu as un nouveau lancement de l'émission. C'est plus le même lancement et ça fait plaisir. J'ai l'impression d'être dans un nouveau podcast.
Tu sais, c'est l'évolution du podcast qui est désormais sur Twitch régulièrement. C'est acté. Il y a peut-être d'autres choses qui arrivent aussi. Et du coup, c'est une sorte de vrai lancement, tu vois, pour accrocher les gens. Bon, ils sont en même temps en train de regarder depuis longtemps. Mais non, c'est comme je fais maintenant. J'ai des petits effets sonores, tu vois, je peux faire genre, par exemple, si JK fait une blague, on peut faire ça, tu vois, c'est...
Alors, je n'entends rien, mais...
Tu n'entends rien ?
J'ai entendu, mais... Oui.
Ah, zut, attends, alors...
J'ai pas le retour, désolé, j'ai pas le retour.
Oh, merde, attends, est-ce que tu entends ça ?
Non, mais j'imagine que c'est un réenregistré ou ce genre de choses, non ?
Oui, exactement. Non, mais t'as même pas entendu le générique, du coup ?
Je l'ai entendu de loin, parce... mais t'as pas genre RTX Voice activé, un truc comme ça ?
Je ne crois pas, mais bon.
Ça coupe les sons, mais c'est pas... Je te fais confiance.
Écoute, ouais, j'ai entendu d'une oreille, je suis sur ton live en même temps. Parce que ceux qui sont en train d'écouter ne savent peut-être pas que tu es aussi en stream sur Twitch.
Exactement.
Il faut venir
Twitch,
te follow.
Tous les jeudis à midi et tous les mardis, c'est le rendez-vous tech. Mais on est très heureux de retrouver Jika, qui est désormais un double papa comme moi. Donc, bienvenue dans la grande famille des gens qui ont deux enfants et qui sont fatigués tout le temps. Je suis très heureux.
Exactement. C'est ça.
Ça vous a pas empêché de faire un ZQSD, hein, c'était le premier depuis 3 ou 4 mois. J'étais très heureux de le voir.
Ouais, je suis content. Bah ouais, quand même, il était temps, ouais.
Ouais, ouais.
Ah ouais, 3h15. Un petit 3h15, on est content.
Comme d'habitude, au début de l'épisode, ils commencent à dire « Ouais, mais ça ne va pas durer longtemps, il n'y a pas beaucoup de news aujourd'hui. » 3h15, très bien.
On n'avait que 3 sujets, on avait techniquement que 3 sujets, mais on a pris le temps de les faire. Quoi.
3h15 de bonheur, merci d'être avec nous encore une fois, Jika. Et donc, on a Fanny, Red Fanny, qui est entre autres CM de Goblin Studio. Merci d'être avec nous encore une fois, Fanny, comment tu vas ?
Bah, ça va très bien, merci de m'avoir invité. Je suis pas double papa, mais je suis double maman de deux chats très mignons. Est-ce que ça compte?
Écoute,
c'est bon, je peux faire partie du crew.
Ouais, mais enfin, disons que c'est un peu moins fatigant quand même, les chats. Hein.
Ouais, c'est sûr.
Tu vois, l'avantage avec les chats, c'est que quand ils t'emmerdent, tu peux fermer la porte. Et tu c'est pas super gentil, mais tu peux, c'est possible. Enfin, remarque, ceci dit, avec les enfants, tu peux aussi, hein, en théorie. Tu pourrais. Après, tu risques de mal finir, mais c'est en théorie possible. Bon, nous, on le fait pas. Donc, un grand merci à tous les deux d'être dans l'émission. On a un programme chargé. Avant de se lancer, je voudrais tout de même remercier ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon, à savoir Quess, Baptiste Lebouris, Damien Baudet, Toumia et le producteur de cet épisode, Johan Journe. Non, c'est pas Johan Journe, c'est Johan Journé. Attention, il faut pas dire Journe puisque ça se prononce Journé. Merci à toi, Johan, et merci à tous les autres qui soutiennent le podcast sur patreon.com/rdvjeu. Merci à vous tous, c'est grâce à vous que cette émission existe. Alors, la Gamescom, on va se lancer immédiatement avec ce qu'on a retenu de la Gamescom, du reste de la Gamescom, parce qu'on a parlé des grosses annonces la semaine dernière, mais il y avait quand même tout un tas de, d'annonces supplémentaires, dont certaines qui m'ont pas mal plu. Je vous propose que je me lance, et puis vous allez me dire ce que vous pensez de ces trucs que j'ai retenus. Il y a de tout, hein. Il y a, c'est essentiellement, de l'indé, puisque les grosses annonces étaient pendant le Opening Night Live dont on a parlé la semaine dernière. Mais dans l'indé, il y a un petit peu de tout. Il y a du roguelite, évidemment. On a de la gestion d'hôpital un petit peu particulière, du golf un peu particulier, un city builder un peu particulier. Enfin bref, il y a plein de trucs sympas. Et au niveau de l'action, on a évidemment du roguelite et du roguelite qui a un un petit peu particulier, je trouve. Enfin, à vrai dire, il y en a deux que j'ai retenus. J'ai vu plein de trailers et les deux que j'ai retenus, c'est d'une part Loopmancer. Loopmancer, c'est un jeu... alors, c'est assez beau, c'est en 3D, ça ressemble un petit peu à, dans le principe, enfin, de ce qu'on voit du trailer, c'est un peu le gameplay de, je dirais, ce qui s'en approche le plus, c'est Dead Cells. Dead Cells, donc, vu de côté en platformer, avec énormément de dynamique dans le gameplay, un truc vraiment, vraiment hyper péchu, et avec des scènes cinématiques, du coup, puisque c'est en 3D, avec franchement une qualité surprenante, ils peuvent en faire quelque chose d'assez convaincant au niveau des cinématiques, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le gameplay. Comme je le disais, c'est un petit peu Dead Cells, le feeling, enfin, ce qu'on voit encore une fois sur un trailer de quelques minutes, ça ne nous donne pas exactement le feeling du truc, mais ça ressemble un petit peu, ça pourrait ressembler à plein de choses, et je l'assimile vaguement à Dead Cells, parce que c'est ce qui s'en approche le plus en tant que roguelite, mais ça a l'air encore plus dynamique, possiblement, encore que Dead Cells, c'était quand même bien péchu. Le truc qui est particulier pour Loopmancer, c'est que c'est une ambiance qui a l'air d'être ambiance de film de Hong Kong, un petit peu. Il n'y a pas de Chow Yun-Fat dans le rôle principal, mais limite, ça serait lui, ça ne me surprendrait pas, on va dire. Un tout petit peu de cyberpunkisation, un tout petit peu de trucs bizarres. En gros, c'est l'un des jeux que j'ai retenu. Donc, ça s'appelle Loopmancer, et si je ne m'abuse, ça sort sur PC, mais on n'a pas encore de date. L'autre jeu que j'ai retenu, c'est donc un petit peu vaguement dans le même...
T'es passé trop vite.
Je suis passé trop vite.
J'allais dire Loopmancer, moi j'ai encore des restes de PTSD de 12 minutes. Donc ouais. Dès que maintenant j'entends un truc à base de boucle temporelle, loop, tu vois,
c'est 12 minutes qui était. Tu l'as fini, tu l'as pas aimé? Moi je l'ai pas fini, faut pas spoiler.
Je l'ai fini, il est génial, mais la fin, c'est. T'as peut-être pas été épargné, je sais pas.
Je veux pas qu'on me dise, mais ouais, c'est très controversé. Ouais.
La fin a été très, très, très critiquée. Et je suis assez d'accord que c'est un gros dommage, que la plupart du jeu est vraiment chouette, il y a des bonnes idées. Moi je suis un petit peu du côté des personnes qui vont le défendre. Je trouve que. Enfin, moi j'adore les huis clos. Et les jeux un petit peu outside comme ça, j'avais adoré genre Stanley Parable, enfin tous les trucs un peu qui te mindfuck, moi j'adore, et du coup c'est vrai que 12 minutes est cool, mais la fin est complètement ratée. Et d'ailleurs dans la série des loops, je sais pas si t'en avais parlé dans le précédent épisode, mais il y a Deathloop aussi que moi j'attends
impatiemment. Bien sûr, on en parlera un petit peu plus tard, ouais, il arrive.
Ça marche.
Mais effectivement, ouais, il y a enfin les trucs d'une manière générale, si on veut jouer à des jeux indés, si on n'aime pas les boucles qu'on refait tout le temps et les roguelites,
tu m'étonnes.
Être emmerdé quoi.
même d'une manière générale, en ce moment le principe de roguelite, on peut citer Returnal aussi, hein, évidemment, mais c'est vraiment un truc qui est ultra à la mode.
Toutes les semaines, il y en a 4 qui sortent, hein, on est d'accord.
Dans les récents, ouais, bien sûr, mais même des gros jeux, on va dire, maintenant près de ce système, enfin des gros jeux, des triple A, on va dire, en termes de budget, mais Loopmancer, ouais, me fait penser à un mélange en termes d'univers entre Sleeping Dogs, Cyberpunk, 2077, évidemment, et puis, ouais, ce gameplay. Bon, en fait, depuis tout à l'heure, j'ai un nom en tête, j'arrive pas à me rappeler, c'était un jeu Xbox 360, c'était un Metroidvania, en 2D en 3D avec un gameplay 2D, un peu futuriste, j'arrive plus, si le chat a ça, qui était plutôt réussi, et ça faisait partie de ces jeux indés, en fait, à l'époque de la Xbox 360, qui avait pas mal fait parler de lui, et j'arrive plus à me souvenir du nom, et je trouve que ça ressemble beaucoup à ça,
mais Shadow Complex, peut-être, comme dit Steph Sinalco.
Shadow Complex, exactement.
C'est vrai qu'il y a un
petit peu. Ils sont forts.
Ça me fait penser à Shadow Complex.
Ouais, tout à fait.
Ça me fait penser à Shadow Complex.
Donc, il y a celui-là. Je vais avancer parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y a There Is No Light qui est beaucoup plus classique dans le sens où c'est vu de dessus, isométrique, mais en 2D. Et c'est un petit peu un Diablo-like. Mais là où je trouve qu'il est notable, parce qu'il y avait plein de jeux, hein, j'en ai retenu que quelques-uns. Là où je trouve qu'il est notable, c'est qu'au niveau des effets graphiques... Alors, bon, avant ça, l'ambiance, c'est un peu ce qu'on peut imaginer de ce genre de truc. There Is No Light, c'est genre... tout est sombre, les dieux maléfiques viennent manger vos enfants, il n'y a aucun espoir.
Il y a du sang des monstres.
C'est ça, exactement. Et donc ça, je ne suis pas forcément client, mais au niveau graphique, c'est un petit peu 16 bits, graphique 16 bits. Mais ce qu'ils font avec les effets graphiques, c'est genre graphique 16 bits, mais il y a des effets qui prennent la moitié de l'écran en graphique 16 bits. Et ça a l'air là aussi très dynamique. Je n'ai pas l'impression que ça soit un roguelite, mais je ne suis pas sûr. Ça ne m'étonnerait pas que ça en soit un. Ils disent qu'on peut faire n'importe quelle partie de l'histoire quand on veut. On n'a pas d'ordre forcément prédéterminé. Mais là encore, ça a l'air assez dynamique, assez exigeant. Et c'est un truc... Disons que c'est difficile de faire très original dans ce genre de choses, mais celui-là m'a quand même, je l'ai quand même retenu. C'est un jeu qui va sortir assez vite, c'est en novembre sur PC uniquement. Donc moi, je garderai un œil dessus, on va dire. Ça vous parle?
J'ai un trou de mémoire d'un autre jeu auquel ça me fait penser, c'est chacun son tour. Les cinématiques, ça me fait vachement penser au jeu où t'avais genre un personnage avec des couronnes, non, couronnes d'épines, c'était t'as une espèce de gros chapeau.
Blasphémous,
bien joué. Les cinématiques font très blasphémous, je trouve. Et ça, ce côté-là a l'air cool, mais par contre.
On est complètement dans cette esthétique, ouais.
Ouais. Par contre, le pixel art, moi, j'ai tendance à dire que c'est le pixel art moche, celui que j'aime pas, où il y a beaucoup de contraintes et du coup, ils se font pas plaisir pour les FX, pour le lighting. Et justement, il y a plus le côté 16 bits. Et du coup, genre, le sol, il est partout de la même couleur parce que c'est partout la même texture. Et moi, j'ai un peu du mal avec ce genre de visuel. Pourtant, j'adore le pixel art, mais c'est un petit peu trop old school pour moi.
C'est difficile à décrire. En fait, ils ont effectivement toutes les contraintes du 16 bits. Sauf qu'ils ont certaines capacités techniques des machines récentes, c'est-à-dire qu'il y a plein d'effets en même temps à l'écran, mais plein d'effets effectivement un peu moches. Ça me fait penser, je ne vais pas me faire des amis, mais ça me fait penser au style graphique qu'on avait surtout sur Mega Drive. Et c'est vrai que ça n'a pas aussi bien vieilli que les autres, je trouve, mais bon.
Mais il y avait une raison. Enfin, tu vois, genre moi, les jeux Mega Drive, il y avait une raison pour. Enfin, il y avait des contraintes. Du coup, moi, j'avoue, j'aime beaucoup le pixel art, mais j'aime bien ce qu'on en fait aujourd'hui du pixel art. Et je sais qu'il y a des puristes qui vont dire, non, mais il faut respecter, machin, comme à l'époque. Bah ouais, mais du coup, on est en 2021, c'est cool aussi d'en faire autre chose.
Bah disons que c'est une intention artistique certainement, et une intention artistique, c'est pas fait pour plaire à tout le monde. Donc.
C'est vrai. C'est vrai. Il y a notre Kassim qui dit que Blasphemous 2 a été annoncé, je ne savais pas, méga hypé.
D'accord, bah écoute, voilà, au moins une bonne nouvelle. J'ai dit que There Is No Light, c'est uniquement sur PC, mais je vois à la fin du trailer qu'en fait, c'est PC, Xbox, PlayStation et Switch, donc partout. Donc, la couverture de la Gamescom de Gamekult qui a été absolument exemplaire, j'ai trouvé le truc où l'article n'est pas parfaitement exact, mais je me suis servi de la couverture de Gamekult pour toute ma couverture Gamescom et elle était vraiment incroyable. Ils ont parlé de tout, quoi. Autre jeu qui m'a sauté aux yeux, mais peut-être là, je sais que c'est pas pour moi, c'est un jeu qui s'appelle Madison, qui est un jeu d'horreur, et pour le coup, c'est effectivement bien un jeu d'horreur, on est d'accord.
Alors pourquoi c'est pas pour toi?
Parce que je suis moi, pas je avoir suis flippette, peur. Hein. Mais moi je suis flippette.
C'est vrai.
Direct. Une scène, je me dis non, c'est bon, je pose la manette, je peux plus, quoi. Et il y a vraiment des effets, et c'est vraiment horreur, genre peur, quoi. On demande dans la chatroom, c'est horreur ou angoisse. C'est vraiment peur. Tu regardes le trailer, en deux minutes, t'es complètement flippé. Et je trouve que ça fonctionne très bien pour les gens qui cherchent ça. Mais ça m'a... En fait, c'est rare qu'un trailer de jeu réussisse à me faire peur juste sur les deux minutes du trailer. Généralement, il faut attendre un petit peu plus. Mais là, c'est vraiment tellement bien foutu que tout de suite, ça m'a fait peur, donc je l'ai retenu. Il y a toute une histoire. Il sort en 2022. Il y a une histoire d'appareil photo qu'on va utiliser pour faire des trucs. Enfin bref, c'est pas que des jumpscares, c'est aussi de l'ambiance, mais ça a l'air pas mal foutu. Ça s'appelle Madison, c'est un jeu d'horreur 3D première personne où le gameplay n'a pas l'air d'être immense, c'est surtout de l'ambiance et des petits éléments de jeu. Quoi.
Mmh. Ouais, on dirait un mix entre Layers... Vas-y.
Layers of Fear.
J'allais dire Layers of Fear. J'allais dire, on dirait un mix entre Layers of Fear et Phasmophobia. Moi, j'avais grave kiffé les deux. Du coup, je suis plutôt hypée.
Bah, c'est ça, on est dans cette mouvance... On est dans cette mouvance qui a été initiée, pas vraiment, mais il y a eu Pity, cette démo qui a énormément marqué. On est dans cet esprit, voilà, je la première personne assez, où il n'y a pas forcément beaucoup d'action, mais on est sur un truc vraiment ultra, ultra flippant. Récemment, il y a eu Visage aussi qui est sorti.
J'ose pas le lancer.
Il est dur. Moi qui suis amateur, il y a vraiment des moments où j'ai vraiment eu du mal à avancer parce que il est terrifiant, quoi.
Mais il a l'air long aussi.
Ouais, malheureusement, pas tenir longtemps. Et c'est très long, ouais. C'est un peu long et c'est un peu des fois, c'est un jeu d'énigmes, d'exploration et d'énigmes. Et des fois, il y a des énigmes un peu relou. Par contre, il y a des idées visuelles formidables. Et puis, visuellement, c'est très beau. Enfin, voilà, Visage, c'est vachement bien.
Et ben, à voir si Madison réussira dans cette catégorie-là. Autre jeu que j'ai retenu, alors là pour le coup c'est vraiment un truc intéressant, c'est War Hospital. War Hospital, c'est un jeu de gestion d'hôpital pendant la Première Guerre mondiale, mais c'est un jeu qui a pour... Oula, pardon, il y a du bruit derrière. C'est un jeu dont l'idée est d'essayer de sauver les vies pendant la guerre. C'est-à-dire que les développeurs, dont je devrais trouver le nom parce que je suis quelqu'un de professionnel.
Nacon le publisher et développeur, ouais. Bravelamb. Ouais.
C'est ça, Bravelamb. Ils ont donc, dans l'intention de développement du jeu, l'idée de faire quelque chose qui est dans la Première Guerre mondiale, donc dans la guerre, mais qui va vraiment à l'opposé de la manière dont on illustre généralement la guerre dans les jeux vidéo, c'est-à-dire les Call of Duty et les trucs comme ça, et donc faire quelque chose de, entre guillemets, positif et d'essayer d'aider plutôt que de détruire, de sauver et d'aider plutôt que de détruire. Et d'ailleurs, les développeurs citaient This War of Mine comme inspiration pour montrer la réalité de la guerre, etc.
Ah ouais, ouais.
Et ça a l'air vraiment être... Alors, je ne sais pas si ça sera mon style, mais je voulais en parler parce que c'est un jeu qui a l'air vraiment notable dans cet aspect-là. Donc, ça s'appelle...
Alors, moi, clairement, je déteste. Je ne suis pas très fan des jeux de gestion. Mais je trouve ça hyper intéressant pour le coup, vraiment. Alors pour le coup, je déteste les jeux de guerre. Où juste le but c'est de te tirer dessus et sans profondeur. Et là, le fait qu'il y ait cet angle-là où on va plutôt, comme tu disais, essayer d'avoir un autre angle et de montrer plutôt les conséquences et pas juste les gens qui se tapent dessus ou même le côté un peu américain qui est souvent valorisé, genre le héros de guerre et tout. Moi, je suis un peu genre. Mais là, le fait que voilà, ce soit les hôpitaux, les infirmiers, les médecins, je trouve ça hyper cool comme angle d'attaque.
Complètement, ouais.
Et puis surtout, c'est un angle original. Enfin, c'est un truc que t'as peu vu, même que ce soit pour un jeu de gestion ou pour un jeu d'un autre genre. Enfin, enfin un peu de ouais. Parce que c'est vrai que tu vois, enfin, c'est une réflexion globale quand je regarde tous les jeux de la Gamescom indé, même chez l'indé, je trouve qu'il y a quand même énormément de genres qui se répètent, quoi. Enfin, il y a des moments les Metroidvania en pixel art et les roguelites en pixel art. Bon, ok, ça va, tu vois. Même si je suis le premier. Non, mais en vrai, en plus, je dis ça, mais je suis qui se fout de la charité. Je suis le premier à y jouer. Les acheter, mais c'est vrai que ça fait du bien de voir une autre proposition, telle que celle-là. Il y a un autre jeu plus tard que moi j'ai retenu comme ça.
Bah très bien, on va continuer du coup. Celui-là, c'était, alors attendez que je retrouve là, c'est fin quatrième trimestre 2022 pour PlayStation 5, Xbox Series et PC. Donc ça sera pas sur PS4 et Xbox One. Quoi d'autre? Alors Cursed to Golf, donc condamné à faire du golf, condamné à jouer au golf. C'est vraiment un truc hyper marrant, hyper intéressant. En plus, même le trailer est rigolo. C'est le développeur qui dit « Hey, salut, voilà pourquoi j'ai fait mon jeu, Liam Edwards », qui est au Japon d'ailleurs, qui habite au Japon et dont la boîte est au Japon. Et alors, le jeu, t'aimes pas trop les roguelites. J'ai pas l'impression que ça soit un roguelite, mais c'est un jeu de plateforme en pixel art où on parcourt un environnement un petit peu Metroidvania-esque, mais en faisant du golf. Et ça,
mais
ça
voilà,
change tout.
Bah voilà, mais là d'accord, là ok.
Mais c'est marrant parce que c'est vraiment, alors pixel art, on va dire 16 bits là encore, mais avec des environnements, avec des petits, comment dire, des plateformes, des tunnels, des petits pics, des endroits où il y a de l'eau, etc., etc. Et nous, on ne se déplace pas dans l'environnement, enfin pas directement, il faut envoyer une balle de golf. Et c'est marrant parce que le développeur dit, mais le golf, tout le monde aime bien, tout le monde connaît, c'est super facile à prendre en main. Et ça, c'est une approche différente, amusante, etc. Donc, le trailer est vraiment convaincant et le concept est vraiment, tu te dis tout de suite, pourquoi pas, quoi, je trouve.
Est-ce qu'il a réussi de faire du golf un jeu de gauche, du coup ?
Un jeu de gauche ?
Parce que c'est pour golf, tout le monde. C'est quand même vachement de droite.
Oui, bien sûr. Mais toi,
dans la vraie vie, ça coûte super cher. C'est un truc un peu qui est réservé à une élite.
Ah d'accord, parce que c'est bon marché. Je ne comprenais pas pourquoi tout à coup, avec le jeu, ça serait bon marché. Ça serait de gauche, mais parce que c'est meilleur marché, c'est plus accessible, c'est ça ?
Bah ouais, il en a fait un truc un peu plus fun.
D'accord. Oui, mais des jeux de golf, il y en a plein. Hein. Tu prends Mario Golf Super Touch.
C'est vrai, c'est vrai.
Il y en a plein, des jeux de golf. On n'a pas attendu Curse to Golf pour faire du golf un jeu de gauche.
Mais moi j'aime bien les mélanges comme ça, les mélanges de style. Ça m'a fait penser à un post-imager que j'avais vu passer qui s'appelait Turn-Based Racing Game That Is Also Golf. Donc c'est un jeu où tu joues une voiture que tu propulses comme une balle de golf. Et j'aime bien comme ça quand ils. En plus, c'est marrant, les deux sont à base de golf. Quand ils mélangent deux styles complètement différents, tu te fais genre, mais c'est pas possible, ça peut pas fonctionner. Et en fait, si. J'aime bien.
Complètement, ouais. Ça a l'air pas mal celui-là. Donc voilà, Cursed to Golf, qui lui aussi arrive en 2022, et ça sera sur PC et Switch, évidemment, c'est pile le genre de jeu qu'on voudra sur Switch, je pense. Quoi d'autre encore ? Il y en a quelques-uns, hein, pas beaucoup. À vrai dire, pour les jeux, vraiment pour les jeux eux-mêmes, il y a Timberborn, qu'on avait déjà vu peut-être au début de l'été, qui est un jeu, là encore, de, on va dire, un city builder. Mais, là aussi, il y a un twist, c'est un city builder où on joue des castors. Et on joue des castors qui construisent leur ville dans les ruines de la civilisation humaine qui a évidemment tout détruit et détruit la nature et s'est détruite elle-même, évidemment. Mais on joue les castors et ça a l'air très mignon, très comique, assez sérieux, quoi. Ça a l'air d'être un vrai jeu de city builder. Mais le fait qu'on joue des castors, évidemment, ça le fait sortir du lot.
Donc, un City Beaver, c'est tellement bien trouvé.
City Beaver.
Incroyable.
Il arrive bientôt en plus, c'est dans deux semaines, c'est le 15 septembre. Il arrive sur PC. Timber.
C'est pas le jour de la marmotte, c'est le jour du castor.
C'est ça.
C'est en accès anticipé, en précisant.
En accès anticipé, tout à fait, ouais.
Ça marche. Est-ce que vous pensez que s'il n'y avait pas eu d'humains, il y aurait eu des castors pour construire des villes ?
Ah, bah écoute, si on attend suffisamment longtemps, les castors, ils construisent déjà des dams, ils construisent des trucs.
Des barrages.
Des barrages, c'est ça. Ils construisent des barrages. Mmh. Donc, du barrage à une centrale de production électrique, hydroélectrique, il n'y a qu'un pas. Donc, peut-être.
Mais complètement.
Donc voilà.
Bientôt, nous serons gouvernés par les castors.
C'est ça, ça serait peut-être mieux. New World arrive en bêta, je voulais le mentionner, arrive en bêta ouverte du 9 au 12 septembre. Il a eu beaucoup de succès pendant sa bêta fermée. C'est le MMORPG de Amazon. Peut-être enfin un bon jeu de Amazon. Et puis on a eu, je vais le mentionner quand même parce que sinon il y aurait une révolution dans le Discord. Il y a eu des infos sur Elden Ring et on a appris notamment qu'il y aurait une carte dans le jeu, une première pour un jeu From, beaucoup de verticalité mais pas de dégâts quand on fait des chutes, donc peut-être un petit peu l'intention de rendre le truc plus accessible, beaucoup de points de respawn également, et il y a des donjons principaux, un par région, il y a six régions je crois, et il y a aussi des mini-donjons, donc c'est vraiment l'esprit monde ouvert, avec quand même beaucoup de From d'Ubisoft, de Soulsborne. Moi, je suis complètement incorrigible. À chaque fois qu'il y a un From, je me dis « Ah, ce coup-ci, peut-être que ça va me plaire, je l'achète, je suis complètement frustré, énervé, et j'arrête. » Non, j'y joue un peu, mais suffisamment pour, tu vois, pour faire un table flip. Et arrêter. J'ai passé quelques heures hein, sur les Soulsborne quand même. J'ai bien dû
mais il faut regarder les gens. Il faut regarder les let's play. Moi, c'est ce que je fais. Je sais que j'y jouerai pas. Les From Software, c'est vraiment trop dur, trop punitif. Moi, je préfère garder mes larmes pour autre chose.
Ce qui est intéressant sur celui-là, c'est que, alors je fais un peu la promo, hein, je suis corpo, mais on a une grosse preview sur jeuxvideo.com parce qu'on a vu le jeu pour le coup. Enfin, moi, c'est pas moi qui l'ai vu, mais on a un collègue qui a vu le jeu tourner, une vraie démo et tout, donc a priori, il était assez emballé.
Je précise, il y a eu un petit push de From qui a montré le jeu en hands-off. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs rédactions.
Voilà, c'est ça, c'était du hands-off. Il a pas joué.
C'était 30 minutes, je crois, 15 ou 30 minutes du jeu, ouais.
Ouais, France, 20 minutes de gameplay et plus présentation et des questions. Et par contre, il y a quand même un vrai travail qui a été fait sur l'accessibilité. Alors, ça veut pas dire que ce sera facile, mais par exemple, tu auras un mode multijoueur qui sera constamment activé et qui sera très facile d'accès, dans le sens où tu pourras facilement demander de l'aide, tu vois. Et un autre détail, et ça paraît con, mais pour un jeu From Software, c'est très rare, les chutes, a priori, ne vont plus qu'occasionner de dégâts. Ce qui est quand même révolutionnaire, c'est-à-dire le nombre de fois où tu meurs dans un Dark Souls parce que tu tombes comme un débile et tu te tues, a priori il y aura pas ça dans Elden Ring. Donc il y a plein de choses qui vont faire que ce sera peut-être le plus accessible des jeux From et à la fois le plus ambitieux en termes en tout cas de scope et de taille quoi. Donc moi je suis quand même très très chaud quoi, même si je suis un peu comme vous, c'est-à-dire que j'adore la proposition, j'adore l'univers, j'adore en général la DA de ces jeux, mais au bout de 5, 6, allez 10 heures maxi, je lâche l'affaire parce que j'ai vraiment du mal quoi.
Je peux comprendre. À vrai dire, moi, j'ai un petit espoir sur les Elden Ring et les jeux en général, les jeux From en général, c'est que quand j'ai joué à Death's Door, qui a un petit aspect quand même compliqué à la Soulsborne, un tout petit peu, même s'il est beaucoup plus accessible sur 90%, même la fin, eh ben, Death's Door m'a vraiment forcé à suivre les patterns des boss et à les apprendre de manière presque académique. Et je me demande si ça ne m'a pas un petit peu mis le pied à l'étrier pour faire attention vraiment à ce à quoi il faut faire attention dans ce genre de jeu. Donc, je me demande. On verra. Et évidemment, je l'achèterai. Il arrive bientôt, hein, il arrive en janvier. Donc, je pense que je tenterai un peu. Même si l'ambiance super dark, ah, c'est les tarnishes, c'est l'entre-terre, c'est les machins, bon, c'est pas trop mon truc. Mais...
Ouais, bah moi je t'avoue que je vois des châteaux, des dragons, je vais peut-être plutôt me remettre à Skyrim.
mais tu peux aller pêcher dans la nouvelle version de Skyrim qui arrive bientôt.
Ouais.
on sent que Patrick, dit Fanny, on sent que Patrick cherche à acheter un tapis, il y a des pubs pour des tapis partout. Et oui, sur chaque site sur lequel je vais, il y a des pubs pour des tapis parce qu'il va faire froid, ça va être l'hiver et je vais enfin avoir un tapis. Enfin, je vais acheter un tapis pour le bureau. Bref, ça, on s'en fout. Donc, je vais continuer à avancer. Et vous allez dire que je ne parle que de Microïds, mais vous savez quoi ? Il y a une bande-annonce pour le Marsupilami et une autre bande-annonce pour les Schtroumpfs Mission Malfeuille. Et... j'ai l'impression que chaque semaine, je reparle de Microïds et de toutes les adaptations de BD qu'ils sont en train de faire. Mais à chaque fois, en fait, ça a l'air d'être tellement compétent et tellement soigné comme adaptation. Sincèrement, les adaptations elles-mêmes, c'est pas que je vais me mettre à jouer au Marsupilami. Mais je me dis, ils prennent les choses à cœur. Ils ont l'air de faire les choses vraiment de manière satisfaisante. Et du coup, je suis très intéressé par ce qu'ils vont faire après. Là, il y a toute une salve de jeux à licence, peut-être un petit peu facile, mais du coup, je suis curieux de voir s'ils ne vont pas ensuite utiliser l'argent qui, j'espère, ils auront réussi à récolter pour faire d'autres choses qui nous parleront peut-être un petit peu plus. Mais bon, bref, ça reste le Marsupilami et les Schtroumpfs Mission Malfeuille avec le vaporisage Schtroumpf du Schtroumpf bricoleur. Bon, on s'en fout.
Non, j'ai raté mon timing pour faire Ouba Ouba.
Ah merde, attends, mais je vais le refaire. Et donc, on attend beaucoup de choses du jeu du Marsupilami.
Ouba, ouba. Mais tu sais que quand j'étais petite, j'avais une musique, ça faisait ouba, ouba et oubi, oubi, c'est le marsupilami. Voilà, bon, tout ça pour dire que le marsupilami, c'est un peu mon enfance. Voilà.
Mais
et qu'il
ça.
A l'air très beau.
Tu sais, c'est tous les gens qui ont un petit peu notre âge, qui sont de notre génération, je nous mets tous les deux ensemble parce qu'on va dire que je suis jeune, mais qui vont les acheter à leurs enfants, je pense. Je pense que c'est ça. Ou même les grands-parents qui vont dire « Ah, mais moi, je me souviens que mon fils, il lisait le marsupilami. » Bref.
Il va falloir que je me dépêche de faire des enfants, du coup, pour vous rattraper. Là.
Non, mais peut-être que, tu vois, tu l'achèteras aux enfants de tes amis ou je sais pas, tu vois, ou aux cousins ou ce genre de choses. Peut-être.
Sinon, j'y joue, ça va, c'est plus rapide.
des jeux de foot, tiens. Bon, d'une part, on sait que Konami a un petit peu transformé son jeu de foot. Perfect Eleven. Putain, j'ai oublié le nom. Pro Evolution Soccer, c'est ça. C'était Winning Eleven avant. Enfin, au Japon. Et donc là, ça se transforme en eFootball. Mais ça, on s'en fout un peu. Ce dont je voulais parler, c'est plutôt UFL, qui est un nouveau jeu de foot qui va aller concurrencer FIFA. Et le truc, c'est qu'il y a très, très peu de concurrence dans les jeux de foot aujourd'hui. Et UFL... va devoir miser sur le gameplay parce qu'évidemment, ils n'ont pas la licence de la FIFA. Et donc, je serais très curieux de voir s'ils vont réussir à convaincre les joueurs qui ne pourront pas avoir dans le jeu tous leurs joueurs préférés et ni de Ronaldo, ni de Mbappé, ni de tout ça. Vous avez vu comme je connais le foot. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui arrivent sur ce marché-là. Et je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire chez UFL. Qui sera d'ailleurs...
On a perdu quand t'as dit jeu de foot, hein. Désolé.
Oui, mais non, mais moi aussi, j'en parle parce que, tu vois, il faut, hein, mais... Et comme le dit Kassim, ils ont Ronaldo et Mbappé. Donc, ça va, tu vois, tu pourras quand même.
Et Massi, il n'y a pas Massi aussi.
Mais exactement.
Un truc comme ça.
Donc voilà pour les jeux que j'ai retenus. Si vous en avez retenu, vous aussi, c'est le moment d'en parler. Mais je pense que c'était à peu près tout. Hein. Je ne sais pas si JK a des...
Moi, il y en a un que je voulais rajouter. Justement, je disais tout à l'heure, on a une proposition originale, en tout cas en termes de visuel. C'est Squadron 51, que je trouve hyper intéressant en termes de DA, puisqu'en fait, c'est... prenez un vieux film de science-fiction des années 50 avec cet aspect en noir et blanc, des maquettes, des décors en carton pâte et tout, et faites-en un shmup qui a l'air assez, en plus, assez vénère, quoi. Avec apparemment des cutscenes avec des vrais acteurs et tout dans l'esprit d'un vieux film de science-fiction. Et je trouve la proposition vraiment, vraiment hyper chouette, quoi. C'est, enfin, à l'époque, ça m'a fait penser, même si c'est pas le même style de jeu, c'est à Cuphead qui reprenait justement un style très ancien de cartoon des années 40, pour en faire un truc vraiment hyper, hyper hardcore, en plus. Là, j'ai l'impression que Squadron, c'est la même recette, mais appliquée au shmup avec le film de science-fiction des années 50. Donc, c'est vraiment un truc très... ça reste niche, je pense, mais je trouve que là, on a une proposition artistique qui est hyper intéressante.
Mais c'est vrai que c'est... Je vous recommande d'aller voir le trailer sur YouTube. Ça s'appelle donc Squadron 51, parce que c'est surprenant. On a vraiment l'impression, à certains moments, de voir un film des années 50. Et avec tout, quoi. Il y a les conventions graphiques, les gros trucs genre « They are here !» Et tu vois le type qui regarde dans ses jumelles et on voit une pauvre soucoupe volante qui est tenue par un fil de nylon. Tu vois, ce genre de trucs, quoi.
C'est ça, ouais. T'as l'impression que c'est Ed Wood qui a réalisé le jeu, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Ouais, ouais.
C'est ça.
Non, ça a l'air très sympa.
C'est sympa. Bon, par contre, après, c'est un boulet.
Voilà, sinon, oui, non, c'est tout ce que je ressens. Ouais. Mais voilà, c'est pas forcément mon style de jeu, mais je trouve que la promotion artistique est super. Et voilà, c'est ce que je retiens du le reste tu l'as déjà cité.
Tu fais bien de le mentionner. Eh bien, écoutez, on va faire une toute petite pause pour vous poser une question. Est-ce que vous êtes quelqu'un de formidable ou juste quelqu'un de sympa? Parce que tous les gens qui écoutent le rendez-vous jeu sont des gens sympas, sont des gens cool, c'est évident, on le sait bien. Mais... il y a parmi ces gens-là des gens qui sont formidables, qui sont merveilleux, et ce sont ceux qui soutiennent l'émission sur patreon.com/rdvjeux. Parce que si vous aimez ce contenu, eh bien vous avez l'option de soutenir, d'envoyer des sous pour que cette émission puisse exister finalement. Parce que le mode de financement essentiel du rendez-vous jeu, c'est le soutien par les auditeurs. On a un système absolument incroyable où vous pouvez écouter l'émission complètement gratuitement, mais si vous le souhaitez, vous pouvez faire comme on faisait à l'époque avec les magazines, aller mettre une petite pièce sur le comptoir de votre kiosque à journaux et payer le magazine que vous prenez. Et vous pouvez aussi ne pas le payer, hein, si vous le souhaitez. C'est comme vous voulez. Mais si vous le voulez, non seulement vous pouvez payer, alors les magazines, vous allez me dire, ah, mais ça coûte 10 euros, 15 euros hein, aujourd'hui, de nos jours. Bon, presque. Mais là, vous pouvez vraiment choisir 1 euro, 2 euros, ce que vous voulez. En plus de ça, vous avez des bonus assez sympas, comme par exemple les time codes dans l'émission. Vous avez zéro pub dans l'émission également. Vous avez quoi d'autre ? Les contenus éditoriaux. Je vous raconte dans l'édito de la semaine comment j'ai complètement paniqué avec un problème sur Feedburner qui faisait que les épisodes n'étaient pas disponibles sur le flux, le dernier rendez-vous tech, et vous ne devinerez jamais la cause de ce problème. J'ai complètement paniqué. Bref, tout ça, et surtout le plaisir de soutenir l'émission, de savoir que vous faites partie de cette incroyable communauté de gens qui sont, bah oui, formidables, actifs, sympathique et qui décide de mettre un petit peu de sous, si vous le pouvez évidemment, un petit peu de sous pour le contenu qu'ils apprécient. C'est grâce à vous que ce contenu un petit peu différent existe. Donc un grand merci à tous ceux qui choisissent de soutenir sur patreon.com/rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission, évidemment. Et oui, Kassim, j'ai des rêves de boomer, possiblement. En même temps, moi, perso, je ne suis pas un boomer. Mais les kiosques, on a connu ça, même les gens un petit peu plus jeunes que moi. À l'époque, quand on allait acheter nos Gen 4 et nos consoles plus, bah, c'était dans des kiosques. Et ouais. C'était
ah, même moi, j'ai connu ça et pourtant, je suis jeune.
Et voilà, exactement.
Par contre, je vois ton fonctionnement. Tu fais de la hiérarchie dans tes viewers, dans tes auditeurs. Oui, genre les meilleurs, c'est ceux qui soutiennent l'émission. Mais tu fais aussi de la hiérarchie parmi tes invités. Genre, oh, mon invité préféré. Ok, d'accord, je vois.
Écoute, je note. Je suis, tu disais qui est de gauche, qui est de droite. En fait, moi, c'est complètement au mérite.
C'est au mérite.
Sauf que tout le monde mérite, en fait.
Bah, bravo.
En réalité, dans mon cœur, tous les auditeurs sont formidables, tu le sais bien. Donc, une fois de plus, le marketing fait mentir. Mais que veux-tu, c'est nécessaire pour pouvoir en vivre. Non, même pas. Les gens sont formidables, tous. Et c'est grâce
à
vous.
Non, mais tu as raison.
Si je peux faire ce truc, donc je le rappelle simplement.
Surtout que Twitch fait des changements qui vont pas forcément permettre de faire sombrer, on va dire,
ouais,
j'utilise des mots pas très polis, mais voilà, de faire sombrer sur Twitch avec les changements.
Ça, on pourrait en parler, tu sais, j'en ai longuement parlé dans l'émission déjà. Je suis pas de l'avis général, moi, sur ça, donc il faudra voir dans quelques mois. Mais on pourrait en parler. D'ailleurs, on va se parler tous les deux demain soir. Donc, peut-être qu'à ce moment, on peut
oui,
en parler, si tu veux.
J'ai hâte. J'ai hâte de te recevoir sur ma chaîne, pour une fois.
Tout à fait.
Les rôles vont être inversés.
Vendredi, 7h, sur la chaîne de Fanny.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On en reparlera.
Mais ouais, n'hésitez pas à utiliser Patreon pour soutenir les artistes, les créateurs que vous aimez, les plateformes alternatives comme ça.
Mais c'est tu cool. sais, c'est ça qui est cool avec Patreon, c'est que tu crées un compte, il y a plein de plateformes de ce type-là, mais il y en a plein qui sont sur Patreon, donc tu crées un compte et après, c'est super simple de soutenir plein de gens différents. Donc, je trouve
c'est
que
vrai. C'est...
Et comme le demande Kassim, est-ce que Patrick sera l'invité préféré de Fanny ? C'est ça la question, c'est à ça qu'on veut la réponse, Fanny.
Ah, donc, tu sais, il y a beaucoup de concurrence. Hein.
C'est vrai, je comprends. Bon, alors, un autre truc hyper, hyper important dont on doit parler, c'est Marvel's Midnight Suns. Midnight Suns, c'est quoi ? C'est le jeu qui avait été présenté il y a quelques jours de ça, dans quelques... Oui, ça fait une semaine ou deux, au début de la Gamescom. Et c'est donc un jeu de Firaxis, les développeurs de XCOM, qui est dans l'univers Marvel. Et je crois qu'après Marvel's Avengers et d'autres jeux pas forcément réussis, les gens sont un petit peu méfiants de ce genre de licence. Et pourtant, je crois qu'ils ont plutôt réussi leur communication. Et je crois que le public a l'air assez enthousiasmé par ce jeu. Donc, on avait une présentation très courte il y a quelques jours. Là, on a eu un long stream et une vidéo de présentation des systèmes. Pour résumer, c'est effectivement un jeu de stratégie, mais qui a l'air un petit peu plus simple qu'un jeu comme XCOM. Il y a, par exemple, des environnements, de ce qu'on a vu hein, dans les trailers, des environnements qui ont l'air un petit peu plus simples, un petit peu plus plats, ce genre de choses. Et on a un système de cartes, de cartes à jouer, hein, pour les différentes capacités qu'on va avoir dans la partie. On a un groupe de 3 super-héros qu'on va réunir, et ces cartes-là, on va les sélectionner donc avant, et on va les sélectionner avant le combat, et puis elles sortiront au hasard. On peut en gagner plus, on peut en augmenter la puissance, etc., etc. Et là, ils se sont, évidemment, ils ont vite précisé que les cartes en question ont augmenté la puissance en jeu. Il y aura des microtransactions, mais uniquement pour les skins des personnages, rien qui affecte le gameplay, parce que tout le monde en a eu peur quand ils ont commencé à parler de cartes avec puissance augmentable. Donc, il y a toute une partie qu'on pourrait attendre d'un jeu Firaxis de stratégie tour par tour, qui est finalement un petit peu classique, mais il y a aussi un petit peu classique, mais comme je le disais, semble-t-il un petit peu plus accessible pour le public Marvel qui n'est pas forcément un fan de ce genre de jeu, mais qui pourra prendre du plaisir à jouer à ce jeu-là, avec un aspect cinématique vraiment important, c'est-à-dire que quand on fait un coup, on utilise les super-pouvoirs de Captain Marvel, ça explose de partout, c'est satisfaisant, ça fait des vrais rayons laser et des trucs très cinématiques, donc ça c'est cool. Mais il y a un autre aspect, qui est l'aspect un petit peu, on va dire, persona. J'ai l'impression que dans différents jeux, on a de plus en plus cet aspect de certains JRPG de construction de relations et d'augmentation du niveau de connexion entre les différents personnages. C'est-à-dire qu'on va jouer un nouveau personnage, un personnage inédit de Marvel qui a été créé pour le jeu, qui est le héros qui s'appelle le Hunter, la Huntress. Et qui est donc le personnage principal qu'on joue, mais on aura une base, et dans sa base, on peut passer du temps avec les super-héros Marvel et augmenter notre connexion. Et du coup, évidemment, moi, j'ai super hâte d'aller jouer au ballon avec Wolverine dans le parc, parler de nos livres préférés avec Magic, ce genre de choses, tu vois. Moi, j'ai très, très hâte de faire tout ça. Mais c'est marrant parce que... donc, ces actions-là ont évidemment un impact sur le gameplay avec la qualité des attaques, l'augmentation de la puissance des cartes, comme je le disais, etc. etc. Et ça a l'air, en fait, ça a l'air d'être vraiment ce qu'on peut espérer d'un jeu comme ça, spectaculaire, pas aussi difficile d'accès que certains jeux du genre, et puis le fun des super-héros Marvel. Jusqu'ici, je crois que tout le monde est relativement agréablement surpris sur ce qu'on a vu du jeu, alors que je crois qu'il aurait été facile de rater son coup avec ce jeu-là. Donc ça s'appelle...
Ouais, en vrai, ça a l'air cool. Hein.
Ouais, n'est-ce pas ?
Ouais, j'allais dire, putain, moi, ce qui me manque dans ce genre de jeu, c'est de pouvoir créer son propre héros, son propre personnage, et je viens de voir au début, il montre quand tu crées ton propre personnage, puis tu peux tout customiser, j'étais là... Yes.
C'est bon. Et il y a vraiment des personnages très variés. Hein. On a les Avengers, les X-Men, enfin certains des Avengers, des X-Men, des Runaways, etc. etc. JK, ça te parle ça ? T'es fan de XCOM, si je ne m'abuse ?
Ouais, j'aime bien XCOM, j'aime bien d'une manière générale Firaxis. Je trouve que justement dans la catégorie des jeux d'action, enfin des jeux d'action n'importe quoi, des jeux de stratégie au tour par tour, qui sont des genres qui peuvent être un peu austères et tout, eux ils arrivent à trouver la bonne formule pour plaire au grand public avec des interfaces chiadées, des tutos qui vont bien, etc. Donc en fait qui se mettent dans cet univers là, ça va ouvrir encore plus ce genre de jeu au grand public, et c'est une bonne chose. À titre perso, le fait qu'il y a du deck, enfin un système de cartes et tout, moi par contre je n'aime pas trop, parce que j'ai jamais été fan de deck building et ce genre de choses, mais bon voilà. Mais ça m'intrigue en tout cas, et je suis plutôt content de voir que Firaxis se met là-dessus, parce que ça peut être même potentiellement un très gros succès pour eux, quoi.
On peut l'espérer, ouais, et puis ils peuvent le développer ensuite. Disons que ça serait pas mal qu'on ait un jeu Marvel qui soit juste bien. Bon, en même temps Spider-Man était bien, mais c'est juste que
on a eu des bons jeux Marvel avant, mais oui c'est ça, c'est qu'Avengers a un peu terni l'image de la licence, en tout cas dans le jeu vidéo.
Pourtant il était très beau,
mais il y a des bons jeux Marvel, il y a eu des bons jeux Marvel, c'est sûr.
Ouais.
Yes.
Écoutez, celui-là, il arrive en mars 2022. Vraiment 2022, il faudra qu'on parle de tout ce qui arrive en 2022, en particulier en février, mais c'est vraiment autant... C'est marrant parce que du coup, 2021, bah, il y a eu plein de AAA qui ont été décalés, donc ça a laissé énormément de place à des indés qui du coup se retrouvent avec une image beaucoup plus forte que les autres années. Mais 2022, ça va être un embouteillage monstrueux. Alors après, il faudra voir si les jeux sont bien, mais il y a quand même du lourd qui arrive. Bref, on verra. Ça, c'était Midnight Suns. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bah, on a joué un petit peu à Psychonauts 2, dont on parlait la semaine dernière, mais il n'était pas encore sorti. J'y ai joué un petit peu, mais peut-être que je vais laisser un expert en parler. JK, toi, tu es content du... C'était... Alors, il faut rappeler quand même que Psychonauts 1, c'était un jeu qui était sorti il y a quoi, 17 ans, un truc comme ça, qui avait un...
Psychonauts 1, ouais.
Vas-y, je te laisse expliquer.
Non, pardon. Non, Psychonauts 1, en fait, c'était le premier jeu de Double Fine. C'était quand le studio a été créé. Donc, Kim Schaefer, ancien de LucasArts, hein, son dernier jeu chez LucasArts, c'était Grim Fandango, donc qui est quand même assez connu. Et il a mis quelques années avant de faire son jeu d'après, donc avec son studio Double Fine. Donc, c'était Psychonauts, effectivement. Et Psychonauts, en fait, dès le départ, il y avait vraiment... Il voulait faire un jeu signature en termes d'univers, en termes d'humour, en termes de côté complètement délirant, absurde, etc. Et c'était de ce point de vue-là, c'était extrêmement réussi. Après, derrière, c'était un jeu d'action plateforme qui marchait pas super bien. Enfin, en vrai, c'était pas très agréable à jouer. Psychonauts, c'est resté un peu culte parce que l'univers était là, etc. Et vraiment, en fait, le 2, pour résumer les choses très simplement, c'est ils reprennent tout ce qui était bien dans le 1 et ils en font un jeu cette fois-ci vraiment viable en termes de mécanique de jeu, en termes de gameplay, parce que c'est vraiment beaucoup plus réussi à ce niveau-là en termes de plateforme, l'équilibre entre les plateformes. Le combat, c'est pas vraiment des énigmes, mais plus c'est qu'il y a beaucoup d'exploration, il y a énormément de petits bonus à trouver, etc. C'est si vous aimez l'exploration et si vous êtes complétiste, vous allez vous régaler. Et en même temps, on n'est pas non plus complètement perdu comme dans un jeu Ubisoft où tu as 50 milliards de trucs à faire, parce que c'est pas un open world, hein, je le précise. C'est un jeu avec plusieurs grandes zones à explorer. Peut-être le pitcher quand même, parce que c'est vrai que c'est un concept un peu particulier. On incarne un Raz, qui est une sorte de petite créature, c'est un jeune garçon qui en fait découvre dans le 1 en tout cas qu'il a des pouvoirs psy, qu'il peut être psychonaute, donc il peut rentrer dans la tête des gens, littéralement dans la tête des gens, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans la tête des gens et le cerveau de cette personne va devenir un vrai niveau avec tout ce qu'il a dans la tête. Donc ce qui est pas mal, c'est que là du coup ça occasionne tous les délires visuels possibles et imaginables, même si ça n'a aucun sens, quoi, et c'est ça qui est super réussi. Et dans ce deuxième épisode, en fait, il intègre l'école des psychonautes, hein. On a un début très presque Harry Potteresque, hein, en termes d'univers, parce que tu t'arrives et toi qui te prends pour un grand héros parce que dans le 1 t'as fait plein de trucs, bah non, tu commences tout en bas de l'échelle, t'es stagiaire et donc tu galères un peu, etc.
Comme le début du 1 qui est un peu en mode scout, tu dois traverser des niveaux, c'est un peu la guerre et tout. Dans le 1, ouais.
C'est ça. Et dans le 2, donc, tu pars là-dessus, et il y a quand même toute une grande intrigue avec le retour d'une espèce d'entité maléfique, façon Voldemort, on va dire ça comme ça. C'est super. Enfin, globalement, c'est étonnamment réussi, en fait, à vrai dire. Parce que moi, je t'avoue que j'étais curieux, mais j'avais un souvenir du 1 qui était chouette, mais pas vraiment inoubliable non plus. Et là, vraiment, j'étais surpris de voir à quel point ils avaient réussi à faire un vrai bon jeu, agréable à jouer et en gardant cette patte artistique et cet humour et cette écriture qui est vraiment, vraiment extra. Donc, alors, c'est pas parfait parce que je dis c'est agréable à jouer, etc. Oui, c'est agréable à jouer. Par contre, c'est pas encore au standard des meilleurs jeux de plateforme action en 3D. Tu vois, par exemple, c'est moins maniable qu'à Ratchet & Clank, par exemple, pour comparer un truc à peu près similaire. Il y a encore des petits points de friction sur les sauts, sur certains combats un peu pénibles, etc. On sent que c'est pas non plus un énorme budget. Tu vois, ça reste un petit studio Double Fine, mais vraiment, ça, malgré tout ça.
Qui a pu travailler beaucoup plus sur le jeu, vu qu'ils font partie de Microsoft maintenant.
Microsoft.
Tim Schafer avait dit mais le fait d'avoir l'argent de Microsoft, ça nous a permis d'ajouter ça, ça, ça et ça, de prendre le temps de mieux le finir, le jeu. Donc, mais ouais,
et le jeu est d'une générosité folle. Oui, voilà, c'est un jeu qui est très généreux. C'est un jeu qui est très joli dans son genre. Encore une fois, techniquement, c'est pas Ratchet & Clank, hein, encore une fois, pour le citer. Mais par contre, artistiquement, je trouve que c'est vraiment, vraiment formidable. Donc je suis très. Alors, je suis pas. Enfin, j'ai pas terminé le jeu encore. Il est assez long. Mais je me régale. C'est vraiment une super suite. Et c'est en plus, c'est dispo. Bah, comme c'est Microsoft, c'est dispo dans le Game Pass. Donc, si vous avez le Game Pass sur Xbox ou sur PC, vous pouvez y accéder sans surcoût, comme on dit. Et donc voilà, non, c'est une bonne surprise. Et c'est à la fois une bonne surprise et une bonne suite. Et si vous n'avez pas joué au 1, parce qu'en fait, c'est vraiment la suite directe du 1 en termes de scénario, c'est vraiment ça reprend là où le 1 s'est arrêté. Mais c'est pas grave si vous n'avez pas joué au 1 parce que vous avez un résumé déjà de ce qui s'est passé au premier épisode. Alors, peut-être qu'il y a des personnages que vous n'allez pas capter qui c'est, etc. Mais c'est pas très grave. Moi, honnêtement, le scénario du 1, je m'en souvenais quasiment plus. Donc, j'ai repris le 2. Là, j'ai eu un résumé de ce qui s'est passé avant. Ça m'a largement suffi. Donc c'est pas forcément, enfin, vous êtes pas obligé de vous taper le 1, qui est un jeu qui, je pense, qui a bien vieilli, auquel je n'ai pas joué depuis longtemps, mais vous pouvez passer directement au 2, quoi.
On est d'accord.
Ouais, mais je trouve qu'on manque vraiment de ce genre d'univers un peu loufoque, burtonesque, burtonien. franchement, je suis bien hypée. Moi, j'avais commencé le 1 et je pense qu'il a quand même assez mal vieilli. Enfin, ouais, ça commence à faire longtemps qu'il est sorti et puis les plateformes, j'ai un peu du mal. Du coup, là, tu m'as pas mal convaincue en me disant que justement, ils ont corrigé tout ce qui n'allait pas dans le 1 et visuellement, ouais, il est splendide, quoi.
Bah, je vais aller dans ce sens-là aussi.
Il est beau, enfin, c'est.
Je vais aller dans ce sens-là aussi. Moi, j'étais vraiment carrément rebuté par le jeu, quoi. Graphiquement, dans les trailers que je voyais et de ce que je connaissais du jeu, j'étais carrément vraiment, comment dire, je me disais, c'est un truc qui va me... J'étais réfractaire, on va dire, voilà, comme ça. Et comme il est dans le Game Pass, bah, je l'ai installé et tout le monde en parlait. Et puis l'idée, je ne savais même pas, depuis le temps qu'on parle du 1, je ne savais pas que c'était un truc où on rentrait dans la tête des gens et qu'on voyageait dans leur imaginaire, en fait, dans leur fantasme, dans leur peur, dans leur, vraiment dans leur esprit. Et je me suis dit, bon, bah, ça peut être un concept intéressant, je vais le tester. Et je l'ai installé. Et en fait, graphiquement, bah, j'ai trouvé ça assez sympa. C'est quand même pas mon truc, mais ça ne me rebute pas du tout autant que j'aurais pensé. Et puis, il y a tout cet aspect plateforme qui est... Alors, j'ai pas énormément joué, hein, j'ai dû jouer une ou deux heures. Tout cet aspect plateforme qui est vraiment réussi, vraiment, le combat est compétent. C'est pas la folie, mais c'est compétent. L'histoire est sympathique, c'est bien foutu, les personnages sont intéressants. Et puis, le fait de rentrer dans l'esprit des ennemis, c'est très original et ça donne des mondes vraiment, vraiment loufoques, étranges, bizarres. Et du coup, je suis très agréablement surpris par le jeu. C'est vraiment un truc que j'attendais pas du tout, du tout. Et c'est plutôt sympa. Et entre parenthèses, il est... Vas-y, vas-y.
Non, j'allais dire le truc de rentrer dans la tête des gens, c'est un truc qui m'avait beaucoup frustré dans pas un jeu mais une série Lock and Key, enfin qui est aussi un comics. Et c'était trop frustrant parce que je trouvais le concept vraiment génial, mais ça dure même pas un épisode, quoi. Et du coup, le fait d'avoir un jeu qui parle de ça, ouais, ça suscite ma curiosité. Et il y a notre Kassim qui dit, et il est drôle. Et ça, c'est cool. C'est les jeux qui se prennent pas au sérieux et qui se servent de l'humour, Ça aussi, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Ouais.
Là, clairement, en termes de feeling, enfin, moi, j'ai retrouvé vraiment des feelings, mais quand je dis feeling, c'est vraiment parce que j'ai pas d'autres mots, en fait. J'ai vraiment des sensations de l'époque où je découvrais les jeux LucasArts, les Death of the Tentacle, Grim Fandango, bah, qui était des jeux de Tim Schafer. Hein. Il y a vraiment cette impression de d'étrangeté et en même temps, hyper d'humour, tu vois. C'est pas, mais par moments, il y a vraiment des moments étranges, tu vois, avec même des designs de personnages qui sont vraiment chelous, quoi. Et donc, c'est vraiment super. Après, ce que j'ai pas cité et ce qui peut être un défaut et ce que je sais qu'en parlant avec des amis, des collègues, ils le citent aussi, c'est que c'est un jeu qui est très bavard. Ça me dérange pas parce que c'est plutôt bien écrit. Par contre, la narration, elle est en fait est constamment interrompue par des cutscenes. C'est un peu, des fois, c'est un peu énervant. C'est-à-dire que t'arrives dans une zone, hop, t'as une cutscene qui va durer, qui sont jamais très longues. Mais il y a même des moments en fait où tu vois des choses en cutscene, tu dis mais ça j'aurais voulu le jouer, quoi. J'aurais voulu que ce soit une séquence de jeu plutôt que de voir ça en cutscene, quoi. Et le jeu est quand même extrêmement bourré de cutscenes et ça il faut être prêt à faire. C'est un peu à l'ancienne là-dessus, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une narration fluide où t'as une narration dans l'environnement, etc. C'est vraiment, t'es très souvent interrompu par des scènes cinématiques qui sont de bonne qualité et qui, encore une fois, c'est drôle et bien écrit, mais elles sont assez nombreuses et qui peuvent un peu casser le rythme de jeu, je trouve.
Eh ben, en tout cas, vous pourrez vous faire votre propre avis, soit sur Game Pass, soit bah, un petit peu partout, parce que c'est un jeu qui avait été, si je ne m'abuse, kickstarté et qui, du coup, bah, comme prévu, sort sur bah, toutes les plateformes. Je vais voir s'il est aussi sur Switch. Peut-être pas sur Switch, non, mais en tout cas sur PlayStation 4, donc dispo sur 5 aussi. Et sur toutes les consoles Xbox, il est aussi sur Linux et sur macOS. Donc, vous pouvez vous faire plaisir. Donc voilà pour Psychonauts 2, et puis on va finir avec une grosse série de petites news. Je vais en lire quelques-unes, et puis vous me dites s'il y en a qui vous parlent particulièrement. D'abord, j'ai l'impression d'être un disque rayé, mais il y a encore une update pour No Man's Sky qui ajoute plein de trucs, avec des trucs particuliers dans les settlements, mais vraiment, je crois que, je ne sais plus quand est sorti No Man's Sky, ça devait être en 2016 ou 2017, et depuis... c'est Hello Games, c'est ça, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est Hello Games. Ils se sont tellement rachetés qu'ils sont le lancement raté, genre on fait pas confiance à la boîte. Là ils sont devenus tellement généreux que c'est tout l'opposé, quoi. Je trouve que c'est justement l'une des boîtes auxquelles je fais le plus confiance, parce que bref, ils continuent à faire des updates et c'est substantiel, quoi. C'est devenu vraiment un jeu hyper complet où on peut faire plein de choses en multi, on a des bases qu'on peut construire, enfin des tonnes de choses, et c'est un univers quasiment infini. Et à propos,
c'est fou ce que peut faire le poids de la culpabilité.
C'est peut-être la culpabilité, mais là c'est tellement que je me dis il s'est dit non, mon jeu, on va en faire quelque chose de fou, quoi. Comment il s'appelle, Murray Sean, non, c'est pas, je sais plus. Ouais.
Bah c'est surtout que c'est un jeu qui aujourd'hui se vend extrêmement bien, donc ils le font vivre. C'est devenu un jeu service, hein, No Man's Sky, et c'est un jeu qui au final à la sortie ça a été la cata, mais j'avais eu des chiffres en tête mais je les ai plus, mais le jeu maintenant se vend mais comme vraiment c'est un carton, quoi.
C'est sûr qu'il le ferait pas s'il n'était pas il n'était pas un succès, mais
oui, évidemment.
mais oui, c'est vrai, t'as raison, c'est un jeu service, et mais c'est fou, quoi. Et c'est marrant parce qu'on a à peu près dans le même temps, on a eu des infos très 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 limitées sur Starfield qui sort quand même dans un an maintenant, un petit peu plus, mais c'est ce qui est prévu, avec trois environnements. En gros, c'est des concept art, on va dire, qui nous ont montré trois vidéos de concept art sur trois environnements différents. Bon, c'est pas beaucoup d'informations, mais ça a le mérite d'être là. Moi, ce que je crains un petit peu, c'est le syndrome planète-ville, genre dans ce genre de jeu, tu vas sur une planète et c'est genre la planète où il y a la ville partout, ou c'est la planète où c'est un océan, et donc c'est une planète port, en quelque sorte, etc., etc., ou c'est la planète de la forêt. Et en fait, donc, t'as pas énormément de variété, parce que chaque planète serait un environnement comme on en aurait dans un autre jeu. Enfin, pas énormément de variété. Ça peut fonctionner, mais bon, là, je reste circonspect encore, même si ça a l'air intéressant. Dans Fortnite, on peut désormais, dans le mode créatif, on peut aller visiter le National Mall, c'est ça, et le Lincoln Memorial, où Martin Luther King a donné son discours « I have a dream ». Évidemment, ça a provoqué plein de réactions un petit peu ambiguës. Alors, c'est sponsorisé par Time, le magazine, Et c'est censé être une expérience éducative. Et il y a plein de gens qui ont mentionné « Ah ouais, mais du coup, tu mets ton skin du xénomorphe d'Alien et tu vas voir, tu vas voir le discours de Martin Luther King, un peu de respect, c'est traité à la légère, machin. » Moi, je me dis que c'est bien d'aller chercher les jeunes où ils sont, et puis ça peut piquer leur intérêt et leur au moins donner conscience de ce genre de choses. Moi, je trouve que c'est pas mal, mais tout le monde n'était pas forcément convaincu. On a également le fait que Netflix soit en train de tester. Ils ont lancé le test du téléchargement de jeux dans leur app, sans surcoût. Alors, c'est un test qui est fait uniquement en Pologne et sur Android, mais il y a deux jeux qui sont téléchargeables. Et encore une fois, c'est inclus avec l'abonnement. On peut télécharger des jeux dans l'application Netflix, depuis l'application Netflix directement. Donc, ils sont vraiment sérieux avec cette histoire de jeux vidéo. Et ils risquent
Ah, il n'y a pas besoin de payer le jeu, du coup.
Non, c'est inclus dans l'abonnement.
Ce sera avec l'abonnement. Ah, ouais, c'est couillu.
Enfin, en l'état maintenant, mais c'est vrai qu'ils disent depuis longtemps que la concurrence pour eux, c'est autant... à vrai dire, ils disaient, c'est pas Disney, c'est pas HBO, machin, c'est Fortnite. Bon, on va dire que c'est autant les uns que les autres, et eux, leur marché, c'est pas le marché du streaming de vidéos, c'est le marché du temps disponible. Comme le disaient nos amis de TF1, ce qu'ils cherchent à obtenir, c'est du temps de cerveau disponible, que ça soit des jeux ou autre chose. Donc, bref, ils commencent à...
Ouais, c'est stratégique. Leur truc. Moi, tant qu'ils font pas de jeux Peaky Blinders ou Sense8, je bouge pas.
Écoute, pourquoi pas ? Il y a une dynamique qui peut complètement se créer, à condition que les jeux soient bons, hein, évidemment, mais il y a une dynamique qui peut se créer avec ça, avec des podcasts, avec plein de choses. Ouais.
Ils ont des univers de séries tellement ouf, c'est vrai que ça serait cool de les exploiter dans des jeux.
Peaky Blinders, très très bien, hein, ceci dit. Mais c'est une série BBC à la base, je crois. C'est pas eux qui produisent.
Ah bon ?
Ah oui, je crois bien, ouais. Et c'est eux qui vendent à l'international, mais... Mais oui, c'est quand même chez eux. Moi, c'est chez eux que je l'ai vu. Et il y a une mission Money Heist, enfin la Casa des Papels, dans Watch Dogs. Donc Ubisoft, ils sont vraiment sur tous les coups. Hein, et partenariat avec Netflix, machin, ok, on y va. Bref, ça m'a fait rire. Mais donc,
ah oui,
voilà quelques news. Je vous laisse le temps de me dire s'il y en a une qui vous a intéressé avant de faire la série de news suivante.
Oui, moi j'avais noté dans la série des deux, dont tu ne parleras sûrement pas, mais comme tu parlais de Psychonauts 2, moi j'ai noté qu'il va y avoir une suite à Coffee Talk, jeu dont tout le monde se fout, mais que c'est trop cool.
Alors, il faut que tu me rappelles ce qu'est Coffee Talk.
Alors que Coffee Talk, c'est un jeu plutôt narratif où on est un barman, on fait des cafés, on prépare des cafés pour des clients qui viennent nous voir et on discute et on a voilà un espèce de mini-jeu où on doit rajouter du lait et servir des cafés aux gens qui viennent nous voir.
Et on discute aussi, ça fait genre conversation, histoire, ou c'est vraiment juste le jeu
C'est ça.
D'accord, donc c'est genre un visual novel.
Voilà, ça s'appelle visual novel, exactement. Bah, je vois ce qui est écrit. Là, il parle du 2 visual novel sur PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One. Il vous en coûtera une petite douzaine d'euros selon la plateforme choisie. Voilà.
D'accord, mais c'est pour vraiment le 2, un jeu, je vois sur le trailer du 1, c'est vraiment un jeu où il y a des éléments de gameplay, quoi, en plus du visuel.
Ouais, il y a des éléments de gameplay où tu dois genre créer le café parfait pour chaque personne. Chaque personne a son café. Voilà. J'aime vraiment les moods comme ça. Puis c'est un jeu assez atypique, je sais pas. Et puis super bienveillant, ils sont super engagés sur l'inclusivité, sur toutes ces thématiques-là, donc c'est chouette.
J'imagine que tu as aimé Boyfriend Dungeon.
Non, j'y ai pas joué et j'en ai entendu des super mauvais échos.
Ah
du coup, je suis un peu sceptique. Ouais.
Oh là là, et moi j'ai beaucoup aimé.
C'est vrai.
Alors il y avait une question avec l'avertissement qui m'était au début, qui selon certains n'allait pas assez loin, mais en même temps, enfin bon, bref. Au-delà de ça, moi je l'ai trouvé vraiment super sympa ce jeu. Bon, on pourra en parler un jour.
Ok, ça marche. Bon, faudrait que je teste.
Ouais. Donc. Autre sujet, bah du coup, puisque tu me parles d'un jeu atypique, je vais en arriver à un autre jeu atypique. D'abord, je vais mentionner que Halo Infinite...
J'aime bien les jeux atypiques.
Halo Infinite, c'est pas un jeu atypique.
Bon, Halo, c'est pas un jeu atypique.
Tu vas voir, on va y arriver au jeu atypique. Je le mentionne parce qu'ils ont expliqué pourquoi on n'avait pas vu de la campagne de Halo Infinite. Et en fait, c'est une raison qui tient debout, je ne sais pas si c'est celle-là, mais ils disent, bah, vous savez, faire un trailer et préparer ce genre de push de communication, ça prend beaucoup de temps sur le temps de développement, et on est encore en train de travailler sur le jeu pour le finir, et on n'a pas le temps. Et je peux comprendre cet argument, mais en même temps, parce qu'on a, on s'attendait à le voir dans la soirée d'ouverture de la Gamescom, enfin un petit peu plus que ce qu'on a vu, mais en même temps, c'est un jeu qui était censé sortir il y a un an. Et ils sont encore en train de travailler dessus pour le finir. Et à la sortie, ils sortent à la toute fin de l'année, le 8 décembre, et il n'y aura pas le mode Forge, il n'y aura pas la coop. Je me demande comment ils ont... Enfin, je pense qu'ils n'étaient jamais censés sortir il y a un an. Ce n'est pas possible. S'ils sont à ce point à la bourre pour le finir. Bref, c'était un petit truc que je voulais mentionner. Et les autres choses, c'est... bah, puisqu'on parle de Netflix et de la concurrence des offres d'abonnement, eh bien... Il y a Lego Star Wars Battles qui était sorti il y a, enfin, en accès anticipé ou en test dans différents marchés il y a quelques temps, qui a été qui a disparu en 2019 et qui ressort sur Apple Arcade. Et ça me paraît hyper intéressant parce que c'est une tendance maintenant. Il y a plusieurs jeux qui ont disparu. On pense à Castlevania, c'est lequel, qui a disparu de l'App Store et qui va revenir sur Apple Arcade dans pas longtemps. Des jeux qui n'ont pas marché dans le marché hyper compétitif des jeux free-to-play où il faut mettre des microtransactions partout et tout miser sur le marketing. Eh bien, Apple... va voir les développeurs et leur dit bah, « Vous nous l'adaptez en jeu où il ne faut rien payer et vous nous le mettez sur l'Apple Arcade et on vous paye voilà, telle somme. » Et donc, ça peut nous permettre de jouer à des jeux peut-être intéressants qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. Bon, je ne sais pas si Star Wars Battles était intéressant, Lego Star Wars Battles était intéressant ou pas, mais en tout cas, il sera sur Apple Arcade. Alors, on ne sait pas quand exactement, je crois, mais il arrivera... et moi, il y a des jeux que je pourrais tester dans ce contexte. Alors, ça ne fait pas partie de Apple Arcade, mais là, on arrive aux jeux atypiques. Passons la tondeuse. À chaque fois que je parle de... comment il s'appelle ? Farming Simulator, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais en fait, juste passer la tondeuse, ça me suffirait. » Eh bien, figurez-vous qu'il y a un jeu sur iOS qui s'appelle « Passons la tondeuse ». Et c'est vraiment juste ça. C'est mon pote Scott Johnson qui tweetait à propos. Il y a un jeu pour juste passer la tondeuse qui s'appelle « Passons la tondeuse ». Et il y a plein d'environnements différents. Je ne sais pas comment c'est monétisé, mais c'est disponible sur iOS. Et il y a un autre jeu atypique. Là, c'est notre ami Escarina qui en parlait il y a un jour, je crois, sur Twitter. C'est un jeu qui s'appelle « Power Wash Simulator ». Alors là, dans le genre jeu satisfaisant, c'est un jeu de Karcher, en fait. Tu as des maisons hyper sales, des machines, des voitures, des tracteurs hyper sales, et il faut que tu les nettoies avec ton Karcher. Ça a l'air tellement satisfaisant. C'est... Bon, peut-être qu'elle nous en parlera dans... dans quelques jours, Escarina, mais moi, c'est un truc que je voulais mentionner, parce que regardez le trailer, c'est genre, oh, c'était sale, et maintenant c'est propre. C'est merveilleux.
Ça me fait penser aux vidéos de perçage de boutons, tu sais, le truc méga satisfaisant.
Les vidéos... Oh ! Mais enfin ! Bon, t'as pas tort. Mais quand même, Fanny ! Merde !
Mais si, quand t'as tout le pus qui sort, là, c'est tellement satisfaisant.
Ah, mais qu'est-ce qu'on fait ? Mon Dieu !
Là, tu nettoies la voiture, c'est pareil, c'est satisfaisant. Ouais, c'est propre.
Si vous aimez c'est un peu l'inverse, en fait.
Abonnez-vous à Patreon. Ouais. Des émotions de qualité.
D'ailleurs, je vais refaire ma promo cette fois-ci. Dans les utilisés, justement, on passe. En fait, Sylvain et Sophie ont joué. En fait, Sophie a joué à Power Wash Simulator et Sylvain a joué à Lawn Mowing Simulator, qui est un simulateur de tondeuse à gazon, mais en 3D, etc., sur PC.
D'accord.
Et il passe 20 minutes à en parler. Et oui, sur PC, c'est pas le même jeu. Hein, c'est pas passer la tondeuse. C'est un truc qui s'appelle Lawn Mowing Simulator, qui est un jeu genre en 3D où carrément tu vas créer ton empire de société de tondage de gazon chez les particuliers. Quoi. Donc c'est ça rigole pas, quoi. Et franchement, ils m'ont donné envie d'y jouer. Enfin, surtout, je sais pas auquel j'ai plus envie de jouer, mais ça a l'air assez fun.
Ouais, c'est le genre de truc fun, facile, tranquille, satisfaisant. Et puis rendons à César ce qui appartient à César. Je crois que Escarina disait qu'elle a découvert le jeu grâce à Sophie. Donc tout vient d'elle.
Je pense que c'est ça, oui. Soit elle a peut-être écouté TQSD, c'est possible.
C'est ça.
Bah, ça me fait penser aussi au jeu, je crois que t'en as pas parlé, qui a été annoncé Serial Cleaners, mais du coup j'avais juste regardé du coin de l'œil. Ah, c'est la suite qui a été annoncée, oui. Ça marche.
Je crois que Serial Cleaners est la suite de Serial Cleaner, je crois que c'est ça le truc.
Ah, ok, ça marche. Mais du coup, moi, j'ai juste regardé du coin de l'œil et je me suis dit, tain, c'est trop marrant, on va nettoyer des scènes de crime. En fait, non, on joue des serial killers, voilà. Enfin,
Ah, mais je croyais aussi que c'était nettoyer les scènes de crime. On joue des serial killers. Ah, bon.
Bah, je sais pas.
J'ai mal compris, alors. Je croyais que c'était le nettoyage.
Ah, j'ai peut-être mal compris.
Des aspects action aussi, mais bon. Écoute, quand
je sais pas, je vais regarder. Bah, alors, je vais mieux regarder. J'ai cru que c'était moi qui avais mal compris, mais si ça se trouve, c'est vraiment ça. Si c'est ça, c'est très drôle.
Truc, ouais, j'ai l'impression que c'était le truc. Bon, écoutez, on va finir avec donc quelques news qui restent. Allez, très rapidement, un peu plus industrie. Brendan Greene, qui est le créateur de PUBG, PlayerUnknown, c'est lui. Et ben, il a quitté Krafton, qui était la société dans laquelle il avait créé PlayerUnknown's Battleground, et il a maintenant sa propre société, donc on verra ce que ça donne dans quelques mois, j'espère. Le contrat d'exclusivité pour mettre Rise of the Tomb Raider sur Xbox, à l'époque où il est sorti, avait coûté visiblement 100 millions de dollars à Microsoft. Alors c'était un contexte où on avait la sortie de Uncharted 4 au même moment, je crois que c'était Uncharted 4, la même année, donc Microsoft voulait son concurrent Uncharted, mais 100 millions... Ça fait chaud, hein. On comprend pourquoi ils investissent dans des studios pour faire leur propre jeu. La nouvelle PS5, alors j'ai vu plusieurs personnes dire que « Ah bah là, il y a une nouvelle PS5, mais en fait elle est moins bien, elle pèse moins lourd, mais c'est parce que le radiateur qui dissipe la chaleur, eh bah, il est plus petit, donc elle est plus chaude, donc elle est moins bien. » Mais en fait, bah oui, il est plus petit, mais elle fait un petit peu moins de bruit parce qu'il y a moins un ventilateur moins gros. Donc oui, elle est plus chaude. Mais si elle fonctionne de la même manière, je vois pas en quoi elle est moins bien. C'était un petit peu des avis biaisés, je trouve. C'était Tom Warren, je crois, de The Verge. Il disait « Oh, elle est moins bien !» C'était un petit peu genre... Il était un petit peu taquin, lui aussi. Toshihiro Nagoshi, vous ne savez peut-être pas qui c'est. Eh ben, c'est le créateur de Yakuza. Et il se ferait débaucher par NetEase. Ça commence à devenir sérieux, hein, du côté des studios chinois. Évidemment, Yakuza, série à succès. Il a peut-être fait le tour aussi de ce qu'il pouvait faire chez Sega. Ou alors, NetEase lui offrirait un gros... paquet de dollars. Naughty Dog est en train de mettre des annonces d'emploi, des offres d'emploi pour un jeu multijoueur. Donc, ça confirme les rumeurs. Naughty Dog est en train de développer un jeu multijoueur, peut-être même basé sur The Last of Us 2. Je crois qu'il y avait à la base un jeu multijoueur qui est censé arriver ensuite. Je me trompe peut-être là-dessus.
Oui, voilà. Est-ce que c'est pas juste le mode multi de Last of Us 2, tu vois ? Parce que honnêtement, enfin, je sais pas. C'est tellement pas dans l'ADN de Naughty Dog de faire un jeu purement multijoueur. J'ai du mal à y croire.
Et c'est pour ça que c'est notable. Mais ce qu'ils disent, c'est que ils sont en train de développer leur premier jeu multijoueur autonome, genre qui fait pas partie d'un autre.
Ouais, d'accord.
Et alors peut-être que c'est celui-là qui s'est transformé en autre chose, peut-être The Last of Us Multi, mais ils le présentent comme ça, donc à voir.
Ouais, ou alors ça va être The Last of Us Multi, mais ce sera un jeu gratuit, enfin c'est un jeu gratuit que tu pourras récupérer gratuitement, comme Red Dead Online par exemple, si je dis pas de bêtises, peut-être j'ai des conneries, je sais plus. Je me demande si Red Dead 2 Online n'est pas gratuit, mais enfin il n'est pas un jeu à part en fait. Mais,
ah bah peut-être, ouais. Peut-être. Non, je crois pas que Red Dead soit... à part.
Non, je sais qu'il y avait un jeu, je sais pas, j'ai en tête un mode multi qui est gratuit.
C'est possible. Mais disons que la grande question, alors dans leur offre d'emploi, ils mettent une grande image de Last of Us 2, hein, donc peut-être que c'est ça, mais ils le formulent d'une manière qui prête à confusion. Donc à voir, ça sera la grande question. Hein. Si c'est le mode multi de The Last of Us 2, c'est moins intéressant. Enfin, moins intéressant, si, ça sera peut-être très bien, mais c'est moins. Surprenant, mais si c'est un jeu complètement différent, évidemment, on est plus intrigué. Team the Tatman, oui, vas-y.
Je me permets juste la parenthèse, du coup, j'avais lu trop vite, et en effet, c'est bien un jeu où on nettoie des scènes de crime. Du coup, Serial Cleaners, tu avais raison. En fait, je me suis dit, ça se trouve, c'est un délire à la Léon le nettoyeur, tu vois, genre, en fait, ils viennent pour nettoyer, entre guillemets, la scène et juste tuer des gens, mais non, c'est bien ça. On doit nettoyer les scènes de crime. Et du coup, je trouve ça hyper original. Je suis bien hypée, donc c'est un instant wishlist.
Parfait. Eh bien, écoute, comme quoi l'émission sert au moins à ça, en plus du fait d'avoir des images extrêmement perturbantes que tu nous mets dans la tête, Fanny, de vidéos que tu vas voir visiblement.
Le plaisir est pour moi.
Tim the Tatman, est-ce que vous savez qui c'est ? Peut-être pas. C'est un gros streamer sur Twitch et il a été débauché par YouTube. Et si ça n'était que lui, bah, on n'en parlerait pas forcément. Mais ça commence à faire beaucoup. Tim the Tatman va désormais streamer sur Twitch. On a, sur YouTube. On a Dr Lupo qui est passé sur YouTube il y a, je sais plus, quelques jours à peine. On a également, il y a un peu plus longtemps, mais il y a Valkyrae qui est sur YouTube également. Il y avait quelqu'un d'autre, j'ai oublié. Alors, pour d'autres raisons, mais Dr Disrespect, je sais pas pourquoi il y a beaucoup de docteurs dans les streamers. Dr Disrespect est également passé sur YouTube. Et puis, il y en avait un autre. Bon, après, il manque plus que, je sais pas, XQC et Courage. Ah non, mais c'est Courage qui est passé sur Twitch aussi. Qui est passé sur YouTube, je me perds. Courage est passé sur YouTube aussi, c'est lui dont je cherchais le nom. Mais ça fait beaucoup, quoi. En plus de ça, alors c'est beaucoup moins impactant, mais il y a l'histoire de A Day of Twitch, une sorte de grève de Twitch pendant une journée pour la question des hate raids dont on parlait il y a quelque temps. C'est des gens qui se font raider par des gens qui les insultent, des raids racistes, en fait, racistes, homophobes, transphobes, etc.
C'est du spam aussi.
C'est du spam, voilà, des gens qui se font aider comme ça. Et les victimes se plaignent que Twitch ne fait pas assez. Et ils ont des propositions, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais alors, il y a des gens qui disent que ce Day of Twitch ne sert à rien. Moi, je trouve que ça a quand même donné beaucoup de visibilité au problème, plus qu'on en avait avant. Et l'image de Twitch commence à en souffrir. Entre ça et les départs de streamers, alors on ne doute pas que YouTube les paye, hein, parce que quand ils passent sur YouTube, ils perdent énormément de followers, ils perdent des revenus. C'est des gens pour qui ça a peut-être moins d'importance que pour d'autres, mais c'est quand même un impact important. Mais sur le moyen terme, peut-être que ça peut donner quelque chose. Il y a un vrai mouvement qui est en train de s'initier et j'étais pas... Enfin, ça m'a un petit peu surpris, on va dire. Je vais continuer avec les sujets un petit peu qui donnent moins le sourire, et puis on reprendra tout ça après. Blizzard va changer le nom de Jesse McCree, le cow-boy de Overwatch, dont le nom venait d'un de leurs employés qui a été, qui fait partie des gens qui ont été, on va dire, accusés de harcèlement sexuel. Je ne dis pas condamnés, parce qu'on n'en est pas encore là. Mais donc, ils vont changer le nom, et ils vont changer le nom complètement, et ça implique de changer toutes les références, toutes les cutscenes, tous les enregistrements de voix, etc. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, mais ils vont le faire. Et puis, il y a eu un thread assez intéressant sur Twitter sur le crunch. Et en fait, le fait de travailler plus que normalement nécessaire. Et ça m'a donné une perspective intéressante que je n'avais pas, à laquelle je n'avais pas pensé, dont je voulais que je voulais évoquer avec vous. C'est cette idée que, en fait, les gens qui crunch, ils ne font pas juste du travail. Enfin, qui crunch, non. Les gens qui travaillent plus parce qu'ils sont passionnés par leur jeu, eh bien, ça a un effet cascade auquel je n'avais pas pensé. C'est qu'eux, ils vont faire un truc. Ils vont développer une quête, développer un système de jeu. Mais ça ne s'arrête pas là. Après, il faut que les autres personnes qui travaillent sur le jeu complètent le travail de cette personne-là. Donc, les personnes qui travaillent beaucoup plus par passion, et on est certain que ça peut exister, et ben en fait, il crée également une, on va dire, obligation, entre guillemets, pour les autres de travailler plus, parce que quand tu fais une quête ou une compétence ou un truc comme ça, ben après, il faut l'habiller, il faut faire les dialogues, il faut faire la scène, il faut faire les effets, etc. Et ça, c'est une perspective que j'avais pas vraiment, qui était hyper intéressante à entendre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais rien faire, etc. Mais c'est un élément intéressant à prendre en compte. Et puis enfin, au moment où la Corée du Nord annule la loi, on va dire, abroge la loi qui interdit aux enfants de moins de 16 ans de jouer entre minuit et 6 heures, il y a tout un tas de raisons, mais en gros, ça ne marchait pas bien. Et en plus, tout le monde est sur mobile aujourd'hui. La loi ne concernait que les consoles et surtout les PC. Donc,
t'es sûr que tu parles de la Corée du Nord, là ?
pardon, la Corée du Sud, évidemment.
Oui, la voilà. La Corée du Nord, ils sont bah, je me dis, ils sont quand même relativement cool.
Si tu veux, la Corée du Nord,
c'est si c'est la Corée du Nord qui autorise...
La Corée du Nord, c'est...
Oui, il n'y a pas de jeu.
Donc, tu vois, ça règle la question.
Voilà.
Et ben, au même moment, la Chine interdit le jeu des moins de 18 ans. Il le limite à 3 heures par semaine. Le vendredi, samedi et dimanche, entre 8h et 9h, et c'est tout. Et c'est tout.
What ?
C'est tout. Ouais. Alors, pendant les vacances, ils sont gentils, tu peux jouer tous les jours pendant les vacances, pendant une heure. Mais moins de 18 ans, tu as une heure de jeu. Alors, les motivations de la Chine, je ne vais pas rentrer dans ces détails, on en parle un petit peu plus dans le rendez-vous tech, mais c'est, on va dire, peut-être la santé des enfants, peut-être d'autres choses aussi. C'est quand même un contact important avec peut-être différentes valeurs ou différentes, même si c'est très contrôlé, même les jeux vidéo, différentes personnes, différentes idées pour les jeunes, je ne sais pas. Mais 3 heures par semaine...
Mais c'est un move super chelou alors que c'est une industrie qui est ultra florissante en Chine, le jeu vidéo.
Alors là où c'est intéressant, c'est que notamment NetEase a dit, pour rassurer les investisseurs certainement, mais également, il y a certainement du vrai, les enfants, ils ne payent pas beaucoup. Tu vois, ce n'est pas les enfants de 18 ans et moins qui vont aller acheter tes skins et tes gachas et tout ça. Donc, pour NetEase, ils estiment que ça représente quelque chose comme 2 à 5% de leurs revenus, quelque chose comme ça. Bon, après, c'est les enfants qui s'habituent à ton jeu et puis après, ils ont 18 ans et ils vont jouer, ils vont payer. Donc, peut-être qu'il faut les avoir quand ils sont encore adolescents. Mais c'est marrant de se dire que même financièrement, ça risque de ne pas trop les impacter. Discadic demande dans la chatroom, quelles sont les sanctions quand on ne respecte pas ? Je pense qu'avec le parti, ça rigole pas, mais en fait, c'est contrôlé à la base par les systèmes de jeu. C'est-à-dire que tu dois vérifier ton identité avec le jeu et le jeu n'est pas accessible à ces périodes-là. Et tu as ton compte et tu ne peux pas créer ton compte sans ton système d'identification, etc. Donc, voilà. Donc, bref, on a des gros sujets. Twitch, un petit peu de Blizzard, le développement en... entre guillemets, passion, et puis le temps de jeu. S'il y a des choses qui vous intéressent là-dedans, c'est le moment, donnez-vous-en à cœur joie.
Déjà, moi, je voulais revenir aussi, tu parlais du crunch, et je pense que c'est un sujet déjà hyper important et dont on commence seulement à parler, alors que c'est un truc qui fait partie du jeu vidéo depuis des années, depuis presque toujours. Et je pense que tu disais que ça impacte aussi les autres membres d'un même studio, mais ça impacte aussi les autres studios, parce que je sais que la concurrence, elle est pas forcément évidente d'un studio à l'autre, mais c'est vrai que quand t'as un studio où tout le monde crunch, où ils embauchent des gens à tour de bras et où il y a énormément de turnover, les gens font des arrêts maladie parce qu'ils partent en dépression, en burn-out, et que derrière t'as un petit studio qui peut-être fait des jeux un peu dans le même délire mais qui est hyper bienveillant, qui essaye d'embaucher des gens un petit peu d'horizons différents, qui embauche peut-être de façon plus inclusive, peut-être des gens qui ont une santé mentale moins évidente, et du coup qui va mettre en place des choses un petit peu mieux, il va être en concurrence avec ce gros studio qui en a rien à foutre et qui va produire des jeux. Et du coup, de forcer les gens à travailler aussi, il y a ça, hein, le crunch, c'est pas juste les... Tu disais, c'est les gens qui sont passionnés et qui veulent jouer, mais il y a aussi énormément de pression hein, des patrons, des chefs d'entreprise qui veulent toujours que ça se finisse plus rapidement, avec plus de contenu. Il y a ce truc de si tu travailles davantage, le jeu sera meilleur. Enfin, il y a beaucoup de manipulation aussi. Faut pas oublier que c'est pas juste des gens qui sont passionnés, c'est aussi des gens où on leur met la pression, on leur dit en gros, si tu fais pas tout ça pour la fin du mois, c'est très facile de te remplacer. Et c'est un truc qui est hyper dur dans le jeu vidéo, c'est que les gens sont très faciles à remplacer parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Le truc de mettre la carotte du jeu passion, c'est vraiment dangereux.
Alors évidemment, c'est bon de le préciser. Je vais juste dire que pour cet argument spécifique, c'était justement parce qu'il y a des gens aussi. Alors dans le tweet, je vais vous repréciser de qui il s'agissait. Dans le tweet, c'était Carrie Patel qui disait ça. Il y a des guillemets sur les développeurs passionnés qui, entre guillemets, choisissent de cruncher. Alors, évidemment, c'est tout à fait le cas. Mais c'est un argument sur la question des développeurs qui travaillent aussi par passion. Parce qu'il y en a, il y a tout ce dont tu parles, mais on dit souvent, et je le dis moi-même, il y a des gens qui ont envie de bosser plus, tu vois. Il y a des gens qui, au bout de 35 heures, se disent « Ah merde, c'est mon jeu, j'ai envie de faire plus, j'ai envie de finir mon truc, ça existe. » Et cet argument de « bah oui, mais tu bosses plus, ok, mais tu crées du travail pour les autres aussi, c'est pas juste pour toi, et après les autres, ben, c'est un petit peu genre « ah bah tu vois, moi j'ai fait un truc et toi tu veux pas le… tu l'as pas implémenté dans le jeu, c'est ta faute quoi ». Et cet argument-là, moi j'y avais pas vraiment pensé. Donc c'est pour ça que même pour les qui bossent par passion, parce que je pense qu'il y a de ça aussi, tu vois, il y a quand même, sans être caricatural… Il y a aussi des gens qui ne veulent pas se limiter aux 35 heures de temps en temps sur certains projets, sur certains trucs. Tu vois, ça peut exister, mais même ces gens-là, il faut être conscient que ça peut créer des soucis de ce type-là. C'est pour ça que j'avais trouvé ça intéressant. Bon, on ne va pas refaire toute la question sur le crunch, mais...
ouais, en plus, ça peut créer une super mauvaise ambiance dans l'équipe, quoi. Quand il y a une grosse, grosse différence entre les différents investissements des équipes, ça fait le truc de genre, mais toi, t'as bossé que 4 heures aujourd'hui, t'es qu'une pauvre merde, ou alors, putain, mais moi, j'ai fait tout ça et les autres font rien. Enfin, ouais, ça...
Disons que
là, l'ambiance, quoi.
4 heures, si on est aux 35 heures, si tu bosses que 4 heures dans la journée, effectivement, on peut se dire que c'est pas suffisant. Mais
il y a des personnes qui peuvent pas bosser plus de 4 heures, donc ouais.
Non,
tu vois, genre déjà tu permets que. Mais oui, la personne qui a bossé 10 heures et la personne qui a bossé 14 heures, ça va forcément créer une mauvaise ambiance.
Mais tu sais, alors c'est complètement, je suis complètement d'accord avec ça, et clairement le crunch est un énorme problème dans l'industrie. Mais la question aussi de. C'est ce que disent d'ailleurs des gens qui répondaient à ce thread, et il y a un débat intéressant à avoir là-dessus. Si tu dis aussi aux gens, bah du coup, tout le monde bosse 35 heures et c'est terminé après, pas d'heure sup, pas de rien, c'est pas la solution non plus, je crois. Tu vois, c'est difficile de se dire sur des domaines créatifs comme ça, on peut pas aller complètement à l'autre extrême non plus. Alors, on pourrait, si tout le monde est d'accord et qu'on fait ça comme ça, ok. Mais je crois qu'il y a vraiment, sincèrement, et peut-être que je me trompe, je pense qu'il y a des gens qui veulent bosser un peu plus sur leur projet. Et peut-être même des gens qui sont pas dans des triple A, tu vois, parce que les triple A, c'est un peu les studios triple A, c'est un peu impersonnel, et puis c'est les actionnaires qui récupèrent les sous de toute façon. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans des studios un peu plus modestes, qui sont dans une bonne équipe, qui ont envie de se donner à fond, tu vois, ça peut exister. Mais bon, clairement.
Ouais, je sais pas. Je t'avoue que moi, ma seule expérience du crunch, c'était. Enfin, j'ai deux expériences du crunch dans ma vie. La première, c'était parce qu'on me mettait la pression et qu'on me disait, bah, de toute façon, t'es renvoyé si tu continues pas de bosser. Je vois quelqu'un dans le chat qui disait, mais aujourd'hui, il y en a plus. Si, hein, j'ai plein de potes qui sont dans le jeu vidéo. Je peux te citer au moins 5 ou 6 boîtes dans lesquelles il y a encore cette pression-là. Donc, ça s'améliore, mais c'est encore bien, bien présent. Et la deuxième fois que j'ai crunché, c'est que ça allait pas du tout dans ma vie et je me suis réfugié dans le travail. Donc, tu vois, je me dis, est-ce que vraiment c'est une bonne chose de laisser les gens entre guillemets passionnés qui choisissent entre guillemets de cruncher? Je suis là, leur santé mentale aussi, c'est bien, non?
C'est vraiment le cas, ouais. Je peux comprendre. Bon, bah écoutez, on aura un jour une nouvelle fois ce débat. On en parlera. JK, je te laisse le mot de la fin si tu veux couvrir un des sujets qu'on a évoqués ou si tu veux simplement nous dire que tu as faim pour le mot de la fin et que tu veux aller manger. Tu peux nous le dire aussi.
Non, juste rajouter sur les sujets que vous venez d'évoquer que si vous voulez, je pense que tu en as déjà parlé, Patrick, et puis je crois qu'il est déjà intervenu dans tes émissions en anglais. Les bouquins de Jason Schreier sur l'industrie sont ultra intéressants. Il y a Blood, Sweat and Pixel qui est son premier livre qui a été traduit en français d'ailleurs depuis, et récemment il a sorti Press Reset qui est toujours en anglais pour le moment, qui parle plutôt de la façon dont les studios ferment et les projets sont arrêtés de manière souvent assez ultra violente, mais le crunch est forcément au cœur du sujet malgré tout là-dedans. C'est un bouquin tout aussi passionnant, Press Reset, que Blood, Sweat and Pixel, et à la fois c'est mortifère et un peu assez édifiant à lire, et en même temps passionnant parce que ça dévoile les coulisses de l'industrie de manière assez pointue, quoi.
J'ai pas encore lu Press Reset, mais effectivement faut que je le chope, mais Blood, Sweat and Pixel est extra parce qu'il couvre le développement de 10 studios différents, enfin de 10 jeux différents dans 10 studios différents. Voilà. Ça va vraiment.
Ça peut être des tout petits projets.
C'est ça. Comme des énormes.
Oui, non, je disais, c'est voilà, c'est ça exactement. Non, je disais, voilà, t'as effectivement les coulisses d'un jeu comme Shovel Knight ou même le gars qui a fait Stardew Valley, il est tout seul, et derrière, il parle de Diablo, il parle de Halo, tu vois, ce genre de truc, quoi. Enfin, non, pas de Halo, de Destiny, plutôt, Destiny. Ce genre de gros, très gros studio, donc, ouais c'est vraiment des lectures hyper intéressantes. Voilà, c'est tout.
Je me note ça.
Je te laisse conclure.
Eh bien, écoute, oui, Blood, Sweat and Pixels, il faut le lire, hein, c'est vraiment très, très bien. Donc, bah, écoutez, on arrive au bout de l'émission. Merci de m'avoir accompagné tous les deux et merci à la chatroom d'avoir été là aussi. Comme toujours, JK, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver quand tu n'es pas en train de dire des bêtises avec moi ici dans cette émission ?
Ouais, ou en train de changer des couches en ce moment. Je suis de retour sur jeuxvideo.com, ça y est, après avoir été absent pendant un mois et demi, pour des sujets beaucoup plus tech, hardware et compagnie. Et là, il y a des belles choses qui sortent. Hein. Le mois de septembre, c'est toujours chargé en nouveautés, donc c'est cool. Et ZQSD, ça y est, on revient avec un format plus classique, c'est-à-dire beaucoup trop long et avec beaucoup trop de bière à consommer avec modération, bien sûr. Dans le dernier numéro, j'en ai parlé tout à l'heure, on parle de simulateur de et de Karcher, on revient sur les 40 ans du PC, on parle de Psychonauts 2, on parle de Humankind également, enfin bref, on a un programme hyper complet et on a bien rigolé, on rigole bien comme d'habitude.
Magnifique, merci beaucoup JK. Fanny, où peut-on te retrouver sur internet?
J'allais dire, vous ferez moi les malins le jour où il y aura un simulateur de perçage de boutons. Oh, je serai au rendez-vous.
Bon, franchement, ça doit exister, je suis sûr. Il doit y avoir des jeux flash, anciennement des jeux flash, tu vois.
Peut-être.
Ça doit exister.
Et bon, écoute, s'il est sur le Game Pass, je le lancerai. Mais vraiment, c'est vraiment que s'il est sur le Game Pass. Hein.
C'est vrai qu'il y a des simulateurs un peu pour tout, donc pourquoi pas, écoute.
Pourquoi pas.
Acne Slayer Simulator, voilà, parfait.
Merci Vincent.
Vas-y. Et du coup, la question c'était où est-ce qu'on peut me retrouver, c'est ça?
Oui, tout à fait. Où est-ce que tu es sur Internet?
Je suis beaucoup sur Internet, c'est même mon travail. Je suis sur Twitter, redfanny__, parce que le Red Fanny est toujours pris, ça m'agace. Mais j'aurais dû peut-être m'appeler Not Red Fanny, ça aurait peut-être fonctionné.
Ah, tu vois, ça c'est plus...
J'avais pas le créneau.
Il n'est pas trop tard.
Je fais pas
tard,
partie du crew des notes.
Non, mais tu peux encore. Hein. On est très
Note Fanny, ça sonne pas mal. Ouais. Ouais. Du coup, redfanny_ sur Twitch, sur Twitter, un peu partout. Et du coup, l'émission Time Out avec Mr. Note Patrick, mais je sais pas quand cet épisode sortira. Donc,
a priori, les gens pourront nous rejoindre.
Eh ben, n'hésitez pas à venir sur l'émission de Time Out. Je reçois à chaque fois deux invités du jeu vidéo, de la presse, du divertissement d'une manière plus générale, et où je leur pose plein de questions personnelles et deep. Donc voilà, j'aurai la chance de recevoir Monsieur Note Patrick et Misty qui est CM dans le jeu vidéo.
Et non pas Oedipe, attention.
Oedipe, écoute, tu sais, c'est vraiment des questions Oedipe très personnelles, donc ça peut aller, on sait pas où. Hein.
Oui, on sait jamais, ça va peut-être finir sur un... Ouais, c'est un peu le...
Ah, c'est possible, c'est possible.
C'était quoi l'émission où t'étais sur un sofa, là, c'était Henri Chapier, là, le divan d'Henri Chapier. Bon, c'est vieux, hein, c'est une référence de vieux, je suis désolé. Mais...
Oui, encore une référence de boomer, mais c'est pas loin, hein. Franchement, c'est des questions, c'est hyper intéressant.
Ouais,
ça...
D'accord.
Il y a des moments où faut sortir le Kleenex, quand même. Hein. C'est...
Ah, ça arrive, ah ouais, ça arrive de temps en temps qu'il y a des gens qui pleurent.
Oui. Mmh.
Bah, mon but, c'est d'essayer de mettre les gens le plus en confiance et à l'aise possible. Donc, quand il y a des personnes qui pleurent, pour moi, c'est quelque part une réussite parce que je me dis, les gens, ils se sentent tellement bien qu'ils se permettent d'être vulnérables en direct, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, je me dis, c'est quelque part que j'ai réussi quelque chose, quoi.
Eh bien, écoute, je ferai de mon mieux pour ne pas verser ma larmichette dans Time Out. Donc, ce vendredi, demain, quand on enregistre, à 7h sur Twitch, sur la chaîne de Red Fanny. D'ailleurs, Evil Coyote nous signale dans la chatroom que sur mobile, il y a plein de jeux où on perce des boutons. Donc, voilà, tu peux télécharger ton bonheur sur ton mobile.
Génial.
Merci à tous. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Tous les liens sont sur notepatrick.com. Vous avez le lien vers le Twitch, mais en même temps, c'est Note Patrick sur Twitch. Vous avez aussi le lien sur notepatrick.com vers le Discord, où on parle tech, jeux vidéo, les derniers épisodes. Vous pouvez me poser des questions, on discute, on est très bien entre nous, c'est très sympa. Là aussi, c'est sur notepatrick.com. Vous avez aussi la newsletter sur notepatrick.com, où vous pouvez avoir le meilleur de ma veille, surtout tech et un peu jeux vidéo, toutes les semaines dans votre boîte aux lettres. Et bien sûr, le Patreon, patreon.com/rdvjeux, pour soutenir l'émission. Si vous appréciez ce qu'on fait, j'apprécierais que vous pensiez peut-être au moins, que vous considériez l'idée de rejoindre la formidable communauté des Patriotes qui soutiennent l'émission. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans une semaine pour le prochain rendez-vous jeu. Et il n'y a pas d'after show aujourd'hui parce que je suis... mon fils est malade et donc c'est la panique dans la maison, comme toujours quand il y en a un des deux qui est malade. Donc voilà.
Oh non,
on va essayer de retourner et s'occuper des enfants. Je vous fais de grosses bises à tous et à toutes et on se retrouve dans une semaine. Ciao, ciao.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.